Bon, ben voilà. À toi, David, je te présente. Je présente. À toi, David, c'est. Habituellement, on présente pas, je ne prends pas le risque de présenter les intervenants parce que je me trompe et je fais des erreurs, donc je ne vais pas te présenter. Hein, tu fais comme tu veux. Voilà.
Je me présente tout seul ou.
Bon, si tu veux, tu fais comme tu veux.
D'accord, je précise que je ne suis pas. J'ai beaucoup d'homonymes, je ne suis pas Henri Garcia, l'ancien journaliste de l'équipe. Je suis David Garcia parce que j'ai quelques millions d'homonymes. Voilà, je suis journaliste indépendant, je travaille notamment pour une revue écolo, je crois que vous êtes un peu écolo aussi, qui s'appelle Terra Economica, et je tiens la rubrique sport du Monde Diplomatique parce que je suis assez éclectique comme vous. Voilà. Et j'ai commis un certain nombre d'ouvrages, dont La face cachée de l'équipe. J'ai fait une enquête sur les activités d'un groupe français, le groupe Bouygues au Turkménistan, une sympathique dictature ubuesque d'Asie centrale. Et récemment, j'ai sorti l'année dernière un livre sur les exploits de Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France, qui s'est dopé au moins autant de fois. Et la raison de ma venue ici, c'est que j'ai publié dans le Monde Diplomatique un article sur les dessous du Tour de France. Voilà, c'est pour ça que Jean m'a contacté. Donc il me revient le rôle ingrat de parler des dessous du Tour de France. Alors comme vous le savez, le Tour de France, c'est un peu la Madeleine de Proust de chacun. C'est des souvenirs de l'été, du mois de juillet. C'est les vacances. C'est les premières rencontres dans les Alpes, au bord des routes. Mais moi, je traite un thème un peu plus aride. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à rendre hommage à nos duettistes qui ont vu juste, puisqu'ils ont cité un certain nombre de personnages qui vont constituer un petit peu la trame de mon récit. Alors bien sûr, il y a Polo La Science, hein, qu'on ne présente plus, hein, Polo La Science, qui est un des acteurs de la rédaction de France 2, qui nous. Attendez, c'est qui Polo La Science d'ailleurs? C'est Jean-Paul Olivier, voilà, j'ai oublié son nom, et qui est le monsieur carte postale du Tour de France, qui nous présente les paysages du Tour de France, parce que la particularité du Tour de France, c'est que c'est presque tout sauf une course cycliste. C'est devenu accessoirement une course cycliste, puisqu'il y a un sondage absolument extraordinaire qui a été largement diffusé dans la presse il y a 2 ans. Et la question, c'était: pourquoi est-ce que vous suivez le Tour de France? On aurait pu s'attendre à ce que les gens répondent parce que j'aime le vélo, j'aime le sport. Pas du tout. Les gens répondent majoritairement parce que j'aime les paysages du Tour de France, parce que c'est souvent le public un petit peu âgé qui regarde le Tour de France à ce moment-là, et ça lui permet de voyager par procuration. Voilà. Et certaines personnes un petit peu mal intentionnées regardent le Tour de France dans l'espoir de voir des gens se doper et se faire prendre, etc. Voilà. Donc ça doit rendre un petit peu triste Paul et la Science. Parmi les autres protagoniste de cette charmante chanson, il y avait le journal L'Épique. Je tiens à signaler que je parlais d'Henri Garcia à l'époque, que Henri Garcia lui-même a sorti une parodie du journal L'Équipe au milieu des années 80 qui s'intitulait justement L'Épique. Donc vous avez vraiment vu juste, bravo. C'était un peu dans cet esprit-là. Et un troisième personnage dont je vais un peu parler, c'est Edmond Hervé, le monsieur sans contaminer. Oui, parce que il se trouve que j'ai interviewé monsieur Edmond Hervé pour une de mes enquêtes. Et ses réponses n'étaient pas piquées des hannetons. Ça m'a beaucoup fait rire. Je vais vous faire part de ce qu'il m'a raconté. Voilà. Donc moi, il me revient donc d'assumer le mauvais rôle. Il faut toujours quelqu'un qui assume le mauvais rôle. Alors moi, je vais donc pas parler du côté sympathique du Tour de France. Non pas que je vais parler du côté antipathique, mais je vais parler plutôt des coulisses économiques. Et donc la question que je me suis posée, c'est: est-ce que le Tour de France, c'est un morceau de notre patrimoine, c'est un morceau de notre identité nationale, hein, c'est un thème un petit peu à la mode, ou est-ce que c'est pas aussi un peu, beaucoup, passionnément, une machine à fric? Désolé, le mot est lâché, je sais, c'est pas très joli, mais donc j'essaie de répondre à cette question, vous me pardonnerez par avance. Pour commencer, je vais citer une phrase d'un éditeur de livres de sport qui, lui, est plutôt dans l'épique, dans l'épopée, et qui a été absolument scandalisé par mes différents travaux. D'ailleurs, il m'a écrit un message me disant qu'il trouvait que c'était pas bien ce que j'avais écrit, que je salissais le sport et le Tour de France. Et il m'a dit ceci: il faut être bien ignorant de la marche d'une entreprise. Là, il parlait de l'entreprise qui détient le Tour de France, Amaury Sport Organisation, dont il va être question ce soir. Donc, il faut être bien ignorant de la marche d'une entreprise, et il faut manquer d'ouverture d'esprit, ce qui doit être mon cas, et un peu le vôtre, hein, aussi, pour réduire les rêves du mois de juillet à cette simple définition. Donc, le monsieur en question s'appelle Christophe Penaud et dirige une maison d'édition basée à Saint-Malo, une maison d'édition qui s'appelle Christelle. Alors, moi, j'essaie d'être quand même journaliste et d'être assez honnête, donc je vais essayer de m'en tenir aux faits, même si je vais faire quelques petits commentaires un petit peu acides. Donc, on va commencer par planter le décor. Le Tour de France, c'est une épreuve sportive, tout le monde le sait. C'est la troisième épreuve sportive au monde en termes de diffusion, après la Coupe du Monde de football, qui va avoir lieu cette année. Après les Jeux Olympiques, on est en plein dedans, les Jeux Olympiques de Vancouver. Mais le Tour de France, c'est la troisième épreuve qui a le plus d'impact en termes économiques, en termes médiatiques. Et c'est une épreuve française. C'est pour ça que la France considère le Tour de France comme faisant partie intégrante de son patrimoine. Eh bien, le Tour de France appartient, peut-être, fait partie peut-être du patrimoine, mais c'est aussi, peut-être avant tout, une entreprise commerciale qui génère beaucoup d'argent. Quelques faits, pour commencer, sans trop vous accabler de chiffres. Le Tour de France génère 70% des revenus d'un groupe qui s'appelle Amaury Sport Organisation. Alors, Amaury Sport Organisation, c'est la filiale d'un groupe, le groupe Amaury, qui au départ est un groupe de presse qui détient plusieurs titres, Le Parisien, aujourd'hui en France, hein, bon, Le Parisien n'est pas distribué ici dans la Nièvre, mais aujourd'hui Le Parisien, enfin aujourd'hui est distribué. Vous avez évidemment le journal L'Équipe ou L'Épique, hein, vous savez comme on veut. Et il y a aussi un certain nombre de filiales sportives. Enfin, il y a une filiale sportive qui s'appelle Amaury Sport Organisation, filiale à 100% de la maison mère, qui détient entre autres le Rallye Dakar, le Marathon de Paris et surtout son principal joyau, le Tour de France. Tour de France qui est, pour mémoire, une épreuve qui a été créée en 1903, donc qui est plus que centenaire. Eh bien, cette épreuve, le Tour de France, génère 70% des revenus d'ASO, Amaury Sport Organisation. Je ne vais pas à chaque fois détailler, donc quand je parlerai d'ASO, je voudrais parler de Amaury Sport Organisation. Il faut savoir que cette entreprise atteint un taux de profit de 20%. Donc un taux de profit à deux chiffres, c'est absolument énorme. Par les temps qui courent, crise économique, rares sont d'abord les entreprises qui font des bénéfices, mais les entreprises qui font un taux de profit à deux chiffres, c'est des entreprises très profitables. Donc le Tour de France, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et en 2007, sur les 39 millions d'euros de bénéfices du groupe Amaury, 29 millions provenaient d'ASO et essentiellement du Tour de France. C'est-à-dire la puissance et l'impact économique de la grande boucle. Dernier fait, je ne vais pas vous accorder de chiffres, le seul et unique destinataire de ces dividendes, comme vous savez, quand il y a une entreprise avec des actionnaires, les actionnaires sont rémunérés, avec ce qu'on appelle les dividendes. Eh bien, Marie-Edouine Amaury et sa famille, présidente du groupe Amaury, détentrice de la 127e fortune de France, selon le classement Challenge des 500 principales fortunes de France, qui est publié chaque mois de juillet, eh bien, Marie-Edouine Amaury détient la 127e fortune de France, donc avec 243 millions d'euros. Donc ça, c'est des chiffres de 2009, en augmentation de 15 millions d'euros par rapport à 2008. C'est-à-dire qu'en un an, elle a augmenté sa fortune de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, c'est en gros la moitié des bénéfices du Tour de France. Donc le Tour de France, ça fonctionne bien. Sachant que Le Parisien et L'Équipe sont des journaux qui ne marchent pas très fort. On sait aujourd'hui que la presse est en crise. Ce qui rapporte de l'argent au sein du groupe Amaury, c'est le Tour de France à 90%. Voilà, ça c'était pour planter le décor économique. C'est factuel, hein, ces chiffres sont avérés, ils sont reconnus par le groupe Amaury. L'ennui dans cette affaire, c'est que le groupe Amaury vit en partie de subsides publics, de subventions, on pourrait dire. Enfin, le terme est contesté par le groupe Amaury. En tout cas, le groupe Amaury, vous savez, je crois que Jean m'expliquait quand il m'accompagnait jusqu'ici, le Tour de France est passé il n'y a pas très longtemps dans la Nièvre, je crois l'année dernière, c'est ça. Hein. Bon, vous l'avez vu, il y a des partenariats entre les mairies, le conseil général. Le Tour de France n'existe pas de façon clandestine. Il est intégré pleinement dans le paysage. Et pourtant, alors que tout le monde semble connaître le Tour de France, alors qu'il y a des milliers de livres, une littérature très abondante qui est parue sur le Tour de France, tout le monde connaît Antoine Blondin, etc., etc., eh bien, les chiffres du Tour de France ne sont pas connus. Il règne une totale opacité sur le sujet. Alors même que la société du Tour de France a une obligation de publier ses comptes. Or, depuis 1992, depuis la constitution de la société ASO Amaury Sport Organisation, je reviendrai plus tard sur l'historique de tout ça, depuis 1992, donc, les comptes ne sont pas affichés. Alors vous me direz, si c'est une obligation, pourquoi est-ce que cette obligation n'est pas respectée? Ben, il faut savoir que lorsqu'une entreprise ne satisfait pas à cette obligation, elle doit payer une amende pas très dissuasive, puisqu'il s'agit d'une amende de 1500 euros, un cadre récidif 3000 euros. Donc on a un groupe qui fait 35 millions d'euros de bénéfices et qui en cas de non-respect, bien, doit payer 3000 euros. Donc ce n'est pas très dissuasif. En principe, les financeurs publics du Tour de France, les collectivités locales, quand je parle des collectivités locales, j'entends par là le fait que chaque fois qu'une ville ou qu'un conseil général partenaire du Tour de France, unitaire du Tour de France, donc accueille le Tour de France dans sa commune, eh bien, c'est cette collectivité locale qui verse une redevance au Tour de France, qui signe un contrat de prestataire. Et parmi les conditions de ce contrat, il y a toutes sortes de conditions. Il y a le fait que la mairie s'engage à assurer la sécurité, à faire en sorte que le Tour de France soit bien valorisé. On en parlait aussi avec Jean. Il n'y a jamais de calico ou d'affiche désobligeante sur les. Tout le monde a l'air heureux, on le voit dans les retransmissions. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des petits slogans subversifs des fois. Bon, des fois, on voit des trucs sur le dopage, mais rien de très méchant. Bon, donc les mairies se plient totalement aux desiderata de la société ASO. Et en contrepartie, la puissance publique ne réclame pas de transparence. Alors qu'en France, c'est le droit français, lorsqu'une la puissance publique injecte de l'argent, elle est en droit de réclamer un minimum de transparence, puisque c'est le contribuable qui paye. Le contribuable, c'est vous et moi. Or, il s'en garde bien. Alors, pourquoi il s'en garde bien ? Ça m'a un petit peu intrigué. Et j'ai posé la question à deux élus socialistes dans l'opposition actuellement, dont justement le fameux Edmond Hervé. Alors, on commence pas par lui, on va commencer par Claudie Le Breton, personnage tout à fait sympathique, qui est président du Conseil général des Côtes d'Armor, président de l'Assemblée des départements de France, et qui est un des partenaires principaux du Tour de France, puisque l'Assemblée des départements de France gère les routes départementales et aussi une partie des routes nationales depuis qu'il y a une décentralisation. Donc c'est un interlocuteur privilégié du Tour de France. Donc je lui pose deux questions, je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus curieux ? Et là, il me répond, d'un air très pénétré, très sérieux, très solennel, il me dit, attendez, monsieur Garcia, si on s'aperçoit que la boîte fait des bénéfices, on leur demandera des comptes. Et donc je lui répète plusieurs fois, mais elle fait des bénéfices. Il me dit, attendez, si elle fait des bénéfices, on leur demandera des comptes. Je lui répète une deuxième fois. Il me dit à chaque fois le même truc. Hein. Bon, voilà. Donc, il faisait mine de ne pas comprendre. Même question à un autre socialiste breton, Edmond Hervé, ancien maire de Rennes, qui a passé la main en 2007, bien connu pour ses frasques autour du sang contaminé, ancien ministre de la Santé, donc. Elle me répond pareil, sur un ton très solennel, il faut une véritable transparence et pour cela, l'ensemble des villes doivent se mettre d'accord pour négocier avec la Société du Tour de France. Il revient à l'Association des maires de France et à l'Assemblée des départements de France de se saisir de cette question. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Et puis, il a pris sa retraite après. Voilà. À titre d'exemple, la mairie de la ville de Rennes, dont il a été maire, a versé en 2006, l'année où la mairie de Rennes a accueilli le Tour de France, une redevance de 76 000 euros pour accueillir une étape. Le système, c'est qu'on paye, les villes payent pour accueillir une arrivée d'étape et aussi pour un départ d'étape. C'est chaque fois à peu près 75 000 euros. Voilà. Alors vous me direz, mais alors pourquoi est-ce que ces hommes politiques ne réclament pas de compte au Tour de France ? Ben, la raison, c'est pas très difficile à deviner, c'est que les retombées médiatiques et économiques sont telles qu'ils ne voient pas tellement leur intérêt à leur chercher des poux dans la tête. Ce que m'a dit Edmond Hervé lui-même, c'est que comparé à une campagne de promotion à la télévision, le rapport qualité-prix est imbattable et la rentabilité plus. C'est ça qu'il a dit. Voilà. À titre d'exemple, les retombées du prologue de Londres, vous vous souvenez, en 2007, donc c'est Londres qui a été le théâtre du prologue du Tour de France, les retombées ont été absolument spectaculaires, puisque la ville de Londres a payé 1,5 million d'euros pour accueillir le Tour de France, et ces retombées ont été de 172 millions d'euros, soit un rapport de 1 à 100. Donc évidemment, c'est très intéressant. Alors dans ces conditions, le fait que le Tour de France soit un peu à cheval sur la législation, ça passe au second plan. Et c'est ce qui explique aussi le phénoménal succès du Tour de France, et même au niveau international. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on imagine que le Tour de France est une épreuve française, voire européenne, puisqu'il y a des villes frontalières, des villes de pays frontaliers qui accueillent le Tour de France. Mais des pays très lointains demandent à accueillir le Tour de France. Le Qatar est candidat. Bon, cette année, ce sera Rotterdam en 2010. Le Qatar est candidat. Le Québec est candidat. Et même le Japon. Et oui, même le Japon. Donc ça semble un peu compliqué, mais ça semble. Le Tour de France se tâte un petit peu. Il se demande est-ce qu'on va peut-être aller au Japon. Hein. Bon, voilà. Donc c'est vous dire. Pardon, il y avait une question là ? Non, excusez-moi, pardon. Voilà. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où les hommes politiques étaient un petit peu plus pugnaces, j'allais dire faisaient un peu plus leur travail. Il fut un temps où notamment la gauche socialiste, qui est, je crois, extrêmement vivace dans ce département, ferraillait pied à pied contre l'argent dans le sport, en vertu d'un certain nombre de principes éthiques. Et le même Edmond Hervé, vous allez me dire, c'est terrible, c'est le grand esprit de rencontre. Je sais pas pourquoi j'ai pris la mouche avec Edmond Hervé, je savais pas que vous alliez faire ça. Eh bien, le même Edmond Hervé, 25 ans en arrière, jeune et fringant, maire de Rennes déjà, hein, parce qu'il a fait une longue carrière d'apparatchik. Eh bien, ce même Edmond Hervé, cité dans un des dossiers du Canard enchaîné, publié en 82. Alors 82, c'est un an après l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée. Le même Edmond Hervé ne mâchait pas ses mots envers la machine Afrique du Tour de France. Et il disait ceci, il qualifiait le groupe Amaury d'entreprise à l'intérieur de laquelle le côté sportif est secondaire. Et il disait, nous avons accueilli le Tour de France en 77 pour un coût de 200 000 francs pour voir les coureurs pendant 10 minutes et la caravane publicitaire pendant 3 heures. Vous voyez, il ne mâchait pas ses mots, le bon Edmond. Et sa collègue socialiste, qui était à l'époque ministre des Sports, je veux parler d'Edoui Javis, était encore plus revendicative que lui, puisque Edoui Javis envisageait même carrément d'interdire la publicité sur Tour de France. La caravane publicitaire, elle n'en voulait plus. Elle en avait marre de ces cyclistes hommes sandwich. Ça a fait très, très peur à la direction du Tour. Bon, ils ont négocié, et puis finalement, ça s'est négocié en haut lieu, à Matignon, à l'Élysée. Il faut savoir que François Mitterrand... adorait le cyclisme, il était féru de cyclisme, il connaissait par cœur le cyclisme, donc il a dit à Edwige, bon, calmez-vous un petit peu, hein, on va pas toucher au Tour de France, hein, donc les velléités de moraliser le Tour de France, de redistribuer les bénéfices, tout ça, ça a fait pchit au bout de 2-3 ans, tout est rentré dans l'ordre, donc que ce soit les gouvernements de gauche ou de droite, rien n'a été fait pour essayer de, eh bien, d'introduire un soupçon d'éthique dans ce grand marché. Et donc, à défaut de changer la vie, les socialistes ont très rapidement changé d'avis. Et cela ne les choque plus du tout qu'une société privée organise une épreuve qui est censée être du patrimoine public, qui utilise des services publics, qui mobilise des gendarmes, qui mobilise la police, qui mobilise des équipements publics. Il faut savoir que pendant 3 semaines dans l'année, vous avez une entreprise privée qui contrôle une partie significative du territoire. Hein. Ça, on le sait pas assez. Moi, ça ne me choque pas. Je n'ai pas donné spécialement mon avis, mais ce qui serait peut-être de bonne à loi, j'allais dire, c'est qu'on lui demande des contreparties, hein, ce qui semble être la moindre des choses. Et alors, le Tour de France, qui est absolument frappant, ça m'a beaucoup frappé en faisant cette enquête, c'est le Tour de France est vraiment l'objet d'un consensus national. Du Parti communiste, du NPA, au Front National, tout le monde aime le Tour de France, personne n'ose critiquer le Tour de France, tout le monde voue un culte à la grande boucle. En somme, c'est l'union sacrée des organisateurs, de la classe politique et de tous les intérêts privés, au nom de l'idée que le Tour de France, c'est le patrimoine, c'est un peu la Tour Eiffel du sport. Voilà, c'est la même chose. Sauf que la Tour Eiffel, jusqu'à preuve du contraire, elle appartient vraiment à tous les Français, elle n'appartient pas à un groupe privé. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du Tour de France. Alors me direz-vous, il ne sert à rien de diaboliser Amaury Sport Organisation, il n'y a pas mort d'homme, ça n'est que du cyclisme, ça n'est que du sport, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, le groupe Amaury se targue d'accomplir une mission de service public, ce qui n'est pas complètement faux, car le Tour de France, la société du Tour de France, Amaury Sport Organisation, détient un certain nombre d'autres épreuves sportives, Paris-Nice, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, qui ne rapportent pas un sou à cette entreprise et qui s'en prévaut toujours, qui dit « sans nous, sans ASO, ces épreuves n'existeraient pas ». C'est tout à fait vrai. La société du Tour de France a besoin de ces courses pour qu'il y ait, tout au long de l'année, qu'il y ait un calendrier sportif. C'est comme si en foot, par exemple, il n'y avait que la Coupe de France. Et ben, pour qu'un sport ait un minimum de visibilité, il faut qu'il y ait un calendrier et plusieurs épreuves pendant l'année. Donc c'est vrai que, de ce point de vue, le groupe Amaury a une mission de service public. Mais alors me direz-vous, vous avez vu, je fais les questions et les réponses, quid de la répartition des bénéfices? Donc, je me suis un petit peu intéressé à la question, j'ai posé la question à Jean-Marie Leblanc, ancien directeur du Tour de France, à Christian Prudhomme, actuel directeur du Tour de France, je leur ai demandé, mais ces bénéfices du Tour de France, qu'est-ce que vous en faites? Bon, d'accord, il y a une partie qui va dans la poche des actionnaires, pourquoi pas, mais est-ce que vous faites quelque chose, je sais pas, pour les jeunes, pour promouvoir le sport amateur? Et là, Jean-Marie Leblanc, il a une réponse. Oui, c'est vrai, on donne de l'argent tous les ans, on donne de l'argent à la Fédération française de cyclisme, on leur donne 1,2 million d'euros. Donc, un trentième de leurs bénéfices. Donc, bon, c'est pas si mal, hein, me direz-vous. Voilà. Alors, historiquement, le Tour de France, voilà, j'ai commencé par planter le décor, maintenant on va faire un petit saut dans le temps. Historiquement, le Tour de France n'a pas toujours été cette machine à faire des bénéfices. À l'origine, en 1903, le Tour de France, ça servait tout simplement à vendre des journaux, à vendre l'ancêtre de l'épique, qui était l'auto. l'auto quotidien de sportif français est créé en 1900 par Henri Desgranges, qui est une des grandes figures du sport français avec le baron Coubertin. Et l'idée à l'époque, c'est de damer le pion à ses concurrents, puisqu'il y avait... Aujourd'hui, vous savez, l'équipe est en situation de monopole. L'équipe qui appartient au même groupe que le Tour de France. On va parler des problèmes de collusion que ça pose d'ailleurs. À l'époque, il y avait 4 ou 5 concurrents. Et l'auto n'était que le 3e ou 4e. Et l'idée de génie du fondateur de l'auto, ça a été de créer cette épreuve. Puisqu'à l'époque, il n'y avait que des épreuves régionales. Bon, évidemment, les moyens pour organiser une épreuve n'étaient pas ce qu'ils étaient. On n'avait pas de caravane, on n'avait pas les moyens motorisés, etc. Et créer le Tour de France, ça semblait absolument fou. Et donc, il crée le Tour de France en 1903 pour faire la différence avec ses concurrents. Et effectivement, ça a très bien marché, puisque d'entrée, l'auto a doublé sa diffusion, qui est passée de 30 000 exemplaires à 60 000. Et au bout de 2-3 ans, tous ses concurrents ont mordu la poussière, notamment le vélo qui était le principal concurrent. Donc, c'est dire qu'il y a toujours eu, enfin en tout cas au départ, un lien très fort entre le Tour de France et ce qu'on appelle ses suiveurs, autrement dit les journalistes et les écrivains. C'est pour ça que si on compare le cyclisme et le Tour de France avec les autres sports, c'est certainement le sport et l'épreuve qui allait générer le plus de littérature. Je vous parlais d'Antoine Blondin, mais on pourrait parler d'autres écrivains. C'est vraiment le sport le plus littéraire, le plus poétique. Je sais qu'ici, Jean me le disait, vous revendiquez un peu comme des poètes, si j'ai bien compris. Voilà, donc ça ne peut que vous ne pouvez qu'être sensible à cette dimension-là qui est absolument incontestable. Il y a une qualité littéraire dans les comptes rendus du Tour de France qu'on ne retrouve pas du tout dans les comptes rendus de matchs de foot, de Coupe d'Europe. Ça, c'est absolument incontestable. Et d'ailleurs, les plumes de l'équipe, les plumes spécialisées dans le cyclisme, sont en général meilleures que celles des autres sports. Donc ça, c'est un acquis qui est plus que centenaire. Alors, l'auto a gardé cette situation de monopole jusqu'à la guerre. Mais en 40, il y a la Deuxième Guerre mondiale, et comme l'auto n'a pas eu un comportement absolument exemplaire pendant la guerre, non pas que Jacques Godet, le fondateur de l'équipe, enfin le successeur de l'auto, ait collaboré pendant la guerre, mais disons que le journal a continué de paraître, donc il n'a pas eu un comportement très glorieux. Et en 46, le Tour de France a failli échapper à la tutelle de Jacques Godet, donc de la mouvance de l'auto. Puisque tous les biens autour de l'auto et du Tour de France ont été mis sous séquestre, et il y a eu une espèce d'enchères qui ont été lancées, et c'est à ce moment-là, au moment de la libération, que le sort du Tour de France aurait pu basculer, puisqu'il y a eu plusieurs candidats. Et parmi les candidats à la reprise du Tour de France, donc il y avait l'équipe, l'ancêtre de l'auto, avec le même propriétaire, Jacques Godet, et il y avait un journal communiste qui s'appelait Sport, avec une vision qui se voulait un petit peu différente, qui se voulait plus populaire, qui prétendait à faire moins d'argent. Bon, il faut savoir que dans les années 20, dans les années 30, le journal L'Humanité était assez critique vis-à-vis du Tour de France. C'est plus le cas aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, puisqu'il y a un relatif consensus. Il y avait une rubrique assez amusante qui paraissait uniquement au mois de juillet pendant le Tour de France. C'était une rubrique qui s'appelait « Sous la trique des patrons ». Et en fait, ça dénonçait le fait que les coureurs du Tour étaient exploités. Parce que aujourd'hui, les champions du Tour sont multimillionnaires. Bon, je vous parlais de Lance Armstrong, on va en parler. Il y a eu des coureurs comme Richard Virenque, Alberto Contador. Bon, ils gagnent des millions, ils sont sponsorisés. Ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'aux années 70, beaucoup de coureurs couraient pour la musette. Ils couraient quasiment pour manger, quoi. Et alors, dans les années 20, dans les années 30, on avait des gens d'extraction très populaire, des fils de paysans, des fils d'ouvriers. Et qui couraient dans des conditions abominables. Il faut savoir qu'à cette époque-là, courir l'Alpe d'Huez sans aucun ravitaillement, sans aucun accompagnement, ça relevait de la prouesse et de l'héroïsme le plus total. C'est de cette époque que date l'expression d'Albert Londres, qui n'est pas les forçats de la route, comme tout le monde croit. Ça, c'est un raccourci journalistique, mais qui est... En fait, Albert Londres a employé l'expression de géant de la route. L'expression forçat de la route date de 1908. Bon, je ne vais pas faire trop compliqué, mais ça revient au même. C'est l'idée que ce sont des gens qui se dépassent dans des conditions inhumaines et qui sont payés, qui sont quasiment pas payés, quoi. D'où la rubrique de L'Humanité sous la trique des patrons. Donc en 46, la mouvance communiste, puisqu'après la guerre, le Parti communiste et tous ses satellites étaient très puissants, veut reprendre le Tour de France. Et ça s'est joué à pas grand-chose. Finalement, Jacques Godet a réussi à reprendre son bien, le Tour de France, mais au prix de certaines concessions, puisqu'il a dû s'allier à un patron de presse qui s'appelait Émilien Amaury, qui est donc le fondateur du groupe Amaury. Émilien Amaury, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet de ce jour. Émilien Amaury est quelqu'un qui venait de qui s'est fait tout seul, et qui fait partie de ces gens qui ont profité de la guerre pour bâtir une fortune très rapidement. Bon, il a été résistant, c'était un vichisto-résistant, puisqu'il a joué sous les... Un peu comme Mitterrand, hein, on revient un peu à la Nièvre. Enfin, voilà. Il a joué sur les deux tableaux très habilement, puisqu'il dirigeait une agence publicitaire qui s'appelle l'Office de publicité générale. Et son coup de génie, ça a été d'un côté, il a travaillé pour le régime de Vichy, il a travaillé pour le commissariat aux affaires familiales. Et donc, vous savez que Vichy, c'était travail, famille, patrie. Donc, il y avait beaucoup de publicité autour du rôle de la mère, au foyer, du rôle de la famille. C'était très important. Et donc, lui, il avait ce marché-là. Donc, il gagnait beaucoup d'argent. Mais là où il a été très habile, c'est qu'il gardait une partie du papier. Parce que pendant la guerre, tout le papier était rationné. Hein, c'était très, très difficile de trouver du papier. C'est pour ça que les groupes résistants étaient obligés de voler du papier pour publier leur journaux clandestins. Et donc, tous les papiers qu'il avait en surplus, il les utilisait, il les donnait au groupe de résistance clandestin. Et donc, il a joué sur les deux tableaux. Et donc, en 1944-1945, il a complètement arrêté de travailler pour Vichy. Et là, il s'est rappelé au bon souvenir des résistants. Lui-même avait fondé un groupe de résistance qui s'appelait le groupe de la rue de Lille. Bref, en 1945, il arrive comme ça à graviter autour des réseaux gaullistes, puisqu'il était lui-même gaulliste. Et il arrive à mettre la main sur le Parisien, enfin, sur l'ancêtre du Parisien, le petit Parisien, qui devient le Parisien libéré. Et il apprend que Jacques Godet a des difficultés, il lui propose son aide, et évidemment son aide n'est pas désintéressée, donc il lui dit, écoute, tu reprends le Tour de France grâce à moi, grâce à mes réseaux, grâce à mon influence, mais je veux 50%. Et donc, Amaury s'approprie 50% du Tour de France, Godet accepte trop content d'avoir au moins la moitié de son bien, 20 ans plus tard, Émile Amaury mettra la main sur tout le Tour de France, parce que Godet aura des problèmes d'argent, etc. C'est comme ça que s'est constitué le groupe Amaury. Bon, et le basculement en fait, du destin du Tour de France date vraiment de la libération, puisque autant Jacques Godet n'avait pas été un grand résistant, autant Jacques Godet était un vrai journaliste. Pour lui, le Tour de France avait vocation simplement... Enfin, c'était une épreuve sportive. Godet était un grand amateur de sport, grand sportif lui-même. Et c'était un héritier, Godet. Hein, quelqu'un d'assez conservateur, mais qui n'était pas obsédé par l'argent, quoi. Lui, il voulait simplement faire tourner sa boutique, l'équipe. Il avait le plaisir de faire ce journal-là. C'était pas vraiment un homme d'affaires. Alors qu'Émile Amaury, lui, c'était un vrai businessman. Bon... Et jusqu'aux années 60, d'ailleurs, le Tour de France, l'âge d'or du Tour de France, bon, la chanson de Montand, les articles de Pierre Chani, Blondin, l'âge d'or du Tour de France, c'est vraiment les années 50-60. À l'époque, le Tour de France, ça rapportait pas d'argent, ça faisait vendre l'équipe, mais il y avait la caravane du Tour de France, d'accord, mais on n'avait pas tous ces sponsors, il n'y avait pas toute cette publicité. Le Tour de France a commencé à être diffusé à la télévision, mais ça ne rapportait pas d'argent. Les droits télé, il n'y en avait pas. Donc il y avait quand même une ambiance bon enfant, il n'y avait pas de village du Tour de France, tout ça. Tout ça, c'est vraiment la France gaullienne. Bon, il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant, mais quand même, il y avait quelque chose d'assez magique au Tour de France, c'est vrai, il y avait ce côté Madeleine de Proust. Et c'était dû à Jacques Godet, qui était malgré tout, même si c'était un héritier, un conservateur, c'était un vrai journaliste. Et il avait comme ça dressé un espèce de rempart autour de ceux qui voulaient en faire simplement une machine à faire de l'argent. Mais Émile Amaury, lui, ne l'entendait pas de cette oreille. Il a placé un de ses hommes, qui s'appelait Félix Lévitant. Félix Lévitant était le chef de la rubrique des sports du Parisien. Et la mission de Félix Lévitant, c'était de faire du Tour de France une entreprise commerciale en tant que telle. Donc ça suffisait, le Tour de France à la papa, il fallait vraiment en faire une entreprise qui gagne de l'argent. Et c'est à cette tâche que Félix Lévitant s'est attelé avec beaucoup de talent. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'il y avait des tensions entre Jacques Audet et Félix Lévitant. Bon, je vous passe les détails. Le Tour de France en 1973 change définitivement d'époque et devient... parce que avant 1973, le Tour de France n'existait pas en tant qu'entreprise. C'était... une sorte de département informel, comme un service de l'équipe. En fait, ça appartenait à l'équipe et aux Parisiens libérés après la libération. Eh bien, Félix Lévitant, qui était co-directeur du Tour de France avec Jacques Godet, lui, dirigeait la partie sportive du Tour de France, et Lévitant, lui, s'occupait de la partie commerciale. Et donc, Lévitant rebaptise le Tour de France, enfin, en fait une entreprise, qu'il appelle la Société d'exploitation du Tour de France. Bon, quelques années plus tard, certains lui ont dit, écoute, société d'exploitation, ça fait un peu mauvais genre. Exploitation, c'est un peu trop voyant ton truc. Ça fait un peu trop, on va faire du pognon. On va enlever l'exploitation. Donc en 1980, c'était rebaptisé Société du Tour de France. C'est quand même un peu plus présentable. Donc, voilà ce que dit l'ancien président. Excusez-moi. Voilà ce que dit l'ancien président de l'Union cycliste internationale, un certain Hein Verbruggen, qui est un peu l'équivalent de Juan Antonio Samaranch pour le CIO. Donc c'est quelqu'un qui a plutôt une calculette à la place de, j'allais dire, du cœur. Non, c'est un petit peu facile, mais personnage très sympathique. Hein. Moi, dans la face cachée de l'équipe, je l'ai baptisé le Dark Vador du vélo. C'est quelqu'un qui a beaucoup de franc-parler, qui est très cynique, mais qui ne s'en cache pas. Donc il a dit ceci: la grande boucle ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui sans Lévitan. Il a développé le sponsoring, les conventions avec les villes étapes et a pris la mesure du potentiel économique offert par la télévision. C'est vrai, avec Lévitan, les chaînes de télévision ont été priées de passer à la caisse. Jusqu'en 1979, c'est pas si vieux. Donc, le Tour de France était diffusé à la télévision gratuitement. Les chaînes de télévision ne payaient rien. Donc entre 54 premières diffusions du Tour de France et 79, elles n'ont rien payé. Et donc Lévitan a dit, ça suffit, il faudrait peut-être mettre un peu la main à la poche. Et donc TF1 a conclu un premier contrat avec la société du Tour de France, qui est un petit contrat, puisque ne devait payer que 2,5 millions de francs. 2,5 millions de francs, c'est quoi? C'est 400 000 euros, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, France Télévisions paye 23 millions d'euros. Je me dirais, le coût de la vie a augmenté, mais enfin, ils sont un peu plus gourmands. Et c'est à ce moment-là, à partir des années 80, que l'esprit du Tour de France a commencé à changer. L'esprit du Tour de France, c'était un peu comme l'université des bistrots, c'était la convivialité, c'était la camaraderie, c'était l'amitié. Bon, je ne dis pas que ça n'est plus ça, mais ça a commencé à devenir vraiment une entreprise commerciale, une multinationale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le Tour de France, il y a toujours ce côté populaire, ce côté merguez parti qui est de bon aloi. Mais je suis allé un peu flirter. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le village du Tour de France. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà promené dans les villages du Tour de France. Déjà, le village du Tour de France, pour y accéder, bah, il faut montrer patte blanche. Il faut avoir un badge. C'est comme ici, hein, sauf qu'ici, on vous le distribue gratuitement, le petit badge à l'entrée. Il faut avoir un sauf-conduit, il faut être journaliste, il faut être un sponsor, il faut avoir été pistonné. Et alors, ce village départ, il est entouré de barrières, vous voyez. Donc, comme s'il y avait d'un côté les gens importants et comme s'il y avait le tout venant. Voilà. Et avec des gens triés sur le volet, ils ont créé une espèce de podium protocolaire, bon, avec des hôtesses d'accueil tout à fait charmantes, tout ça. Et donc tout ça, c'est professionnalisé. Donc avant le Tour de France, il y avait un côté joyeux bordel, vous voyez. Des fois, les étapes arrivaient en retard. Il y a ces récits que tout le monde connaît, que Paul Olassien s'est souvent raconté, hein, qui racontera, je pense, jusqu'à son dernier jour. Dans les années 50, vous aviez des fois des coureurs qui étaient un petit peu en avance, qui s'arrêtaient dans un village, qui allaient au bistrot, qui allaient boire un coup. Hein, mais ça se passait comme ça. Aujourd'hui, on n'imagine pas Lance Armstrong s'arrêter chez Babette et Eva pour boire un canon. Hein, ça, parce que non, il perdrait au moins 10 secondes. 10 secondes, ça pourrait lui faire perdre le Tour de France. Tout ça, c'est bien fini. Hein, le marketing a pris le pas sur la culture du hasard, de la gratuité, de la convivialité. Donc les télévisions ont été priées de passer à la caisse, les sponsors ont été incités à venir. Et ben, les sponsors, on leur a aussi demandé de l'argent, hein, tout ça c'est pas gratuit. Jusqu'à la fin des années 80, donc là encore c'est très récent, les sponsors automobiles, vous savez, on voit des voitures du Tour de France, on voit la voiture rouge du directeur du Tour de France, c'est toujours la même marque. Aujourd'hui c'est Skoda, donc une filiale de Volkswagen. Dans les années 70 et 80, c'était Peugeot. Et bien jusqu'à la fin des années 80, Peugeot déboursait une somme dérisoire pour être sponsor du Tour de France. Il payait 500 000 francs. 500 000 francs, c'est quoi 100 000 euros? C'est rien du tout. Jusqu'au jour où un directeur du groupe Amaury, Jean-Pierre Courcol, qui n'avait pas le même profil que ses prédécesseurs, qui n'avait pas le profil d'un Jacques Godet, qui lui venait de la pub, qui était monté en graine chez Havas, et qui a dit ça suffit, il faut maintenant penser au compte courant. Hein. Donc un jour, il appelle Jean Todt, qui est le directeur sportif de Peugeot, lui dit 500 000 francs, c'est ridicule, tu vas me donner 10 fois plus. Et donc Jean Todt pense que c'est du bluff, il dit non, je ne vais pas donner 2 fois plus. C'était pas du bluff. Jean-Pierre Courcol a tenu bon et il a appelé le directeur, le patron de Fiat, il leur a dit bon, on vous permet de devenir sponsor du Tour de France si vous nous donnez 6 millions de francs. Donc soit 11 fois plus que ce que payait Peugeot. Et donc, le directeur du Tour de France, qui est tout content, à la fin des années 80, le Tour de France était vraiment devenu planétaire. C'était déjà diffusé aux États-Unis, en Amérique, en Asie, ce qui n'était pas le cas jusqu'aux années 70, où c'était une épreuve essentiellement européenne. Surtout visible en Europe de l'Ouest, hein, dans les pays historiques du cyclisme, hein, Italie, Belgique, Espagne, France, ou en Grande-Bretagne un petit peu. Et donc, Fiat dit banco, on paye 6 millions, et donc après, ça a été la surenchère. Hein, à chaque fois qu'il y avait un renouvellement, la redevance doublée, triplée. Donc on est en 89, et en 92, nouvelle étape dans le... dans l'évolution vers le big business. La société Amaury Sport Organisation, dont je vous ai parlé en préambule, est créée. Donc l'idée toujours, c'est de professionnaliser tout ça, c'est de générer toujours de plus d'argent autour du marketing, des droits télé, etc. Et pour assumer la présidence d'Amaury Sport Organisation, la famille Amaury, donc Jean-Pierre Courcolle, fait appel à un personnage mythique du sport français, dont on parle un petit peu en ce moment, qui n'est autre que Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy, triple médaillé aux Jeux Olympiques de Grenoble, qui a très bien réussi sa vie d'homme d'affaires. Je vais en parler un petit peu plus tard. Et Jean-Claude Killy, qui a non seulement été un grand sportif, mais qui est donc un homme d'affaires avisé. Et ça, symboliquement, c'est un moment très important de l'histoire du Tour de France, puisque pour la première fois dans l'histoire du Tour, le Tour va être dirigé par un non-sportif. Ça s'est fait donc en plusieurs temps. D'abord, le groupe Amaury a mis la main sur le Tour de France, donc il y avait déjà une logique business, mais le Tour de France était quand même dirigé par un journaliste, par quelqu'un qui mettait le sport en avant. Là, Jean-Marie Leblanc, qui était le successeur naturel de Jacques Godet, il est mis sur la touche. Il ne s'occupe plus de la dimension sportive, finalement, il est relégué. Et c'est Jean-Claude Killy et sa bande d'hommes d'affaires qui vont diriger le Tour de France. Et il faut reconnaître que Jean-Claude Killy, il a été particulièrement efficace. Hein. Il avait des états de service assez impressionnants. Jean-Claude Killy, il prend sa retraite à la fin des années 60. Bon, avec son physique de beau gosse, il a tout de suite intéressé des publicitaires. Donc il a fait carrière aux États-Unis, parce que Killy, c'est un des premiers sportifs français qui se sont exportés au niveau mondial. Il a été embauché par l'agence de marketing McCormack, qui en a fait une de ses figures de proue. Il a fait des campagnes pour Canon, pour Chevrolet, pour Rolex. Il est devenu une icône de la publicité outre-Atlantique. Il est devenu un des Français les plus connus aux États-Unis. Il est devenu ensuite agent publicitaire pour General Motors. Il a créé sa propre marque de sport d'hiver, Velleda. Donc c'est aussi un créateur d'entreprise qui réussit. Et puis il a eu cette consécration au moment des Jeux Olympiques d'Albertville, puisqu'il était le président du comité organisateur d'Albertville. En plus de tout ça, Jean-Claude Killy a été membre du comité international olympique. Il a un carnet d'adresses absolument incroyable. Donc, bon, Killy, superstar. Et donc, ASO, en s'adjoignant les services de Jean-Claude Killy, a décroché le gros lot, puisqu'en quelques années, le groupe Amaury a pulvérisé les plafonds de la rentabilité. Antenne 2 a dû passer à la caisse, donc a dû doubler ses droits de diffusion. De toute façon, Killy lui a dit si vous ne payez pas deux fois plus cher, on ira voir du côté de vos concurrents TF1. Donc évidemment, ils se sont pas fait prier, parce qu'il faut savoir que France Télévisions se fait toujours battre à l'audimat par TF1, à peu près 330 jours sur 360, sauf pendant le Tour de France, où là, France 2 est devant TF1. Donc ça constitue un enjeu extrêmement important. Et donc, vraiment, le décollage mondial du Tour de France, l'arrivée des bénéfices en masse, date vraiment des années 90. Alors, on aurait pu se dire, je vous parlais tout à l'heure des coureurs du Tour de France sous-payés, qui subissaient le joug des patrons sous la trique des patrons. On aurait pu s'attendre à ce qu'eux-mêmes bénéficient un peu plus des retombées du Tour de France. Effectivement, aujourd'hui, les coureurs du Tour sont un peu mieux payés. Mais enfin, les bénéfices sont toujours très inégalement repartis. À tel point qu'un ancien directeur du Tour de France, d'avant l'ère Killy, un certain Jean-Pierre Carinceau, proche de Jean-Marie Leblanc, lui, un niçois extrêmement sympathique, extrêmement convivial, qui lui n'était pas vraiment, bien que publicitaire, n'était pas tellement obsédé par les bénéfices, et qui s'est très mal entendu avec Jean-Claude Killy, qui l'a viré. Il m'a dit ceci. Il m'a dit qu'un jour, il est reçu dans le bureau de Jean-Claude Killy, et là, il dit à Jean-Claude Killy, mais écoute, il faudra donner un peu plus d'argent aux coureurs quand même, c'est quand même eux qui font la légende du Tour. Et Killy lui a dit ceci, je l'ai publié dans Le Monde Diplomatique, ça n'a pas été démenti. Donc il dit ceci à Jean-Pierre Carinceau, tu peux raconter ce que tu veux, je ne pense qu'au fric. Au moins c'est clair. Bon, alors, évidemment, il ne dira jamais ça dans un média. Et alors Jean-Claude Killy, il pense tellement qu'au fric, même quand ça chauffe pour l'image du Tour, même quand il y a des affaires de dopage, il n'oublie pas sa calculette. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire Festina, juillet 98. Une voiture de l'équipe Fastina est arrêtée à la frontière belge, une voiture conduite par le soigneur de l'équipe, hein, Willy Voot. Et cette voiture était pleine à ras-bord de produits dopants. Alors, ça a déclenché la plus grande affaire de dopage de l'histoire du sport, qui a fait jurisprudence, il y a eu un jugement, etc. etc. Et bon, c'est vrai que l'épreuve du Tour de France de 98 a été un peu caviardée, puisque la moitié des équipes se sont retirées. Le vainqueur de l'épreuve, Marco Pantani, bon, qui après est mort d'une overdose, on va dire que sa victoire a été un petit peu entachée d'irrégularité. Enfin, la famille Amaury a refusé d'arrêter l'épreuve. Hein. Il fallait bien continuer jusqu'aux Champs-Élysées, parce que les sponsors, c'est ce qu'ils demandaient. Et donc, en pleine affaire Festina, Jean-Claude Killy, qui est le vrai patron, je vous l'ai dit, lui, très prudemment, il s'est tenu en retrait, parce que Killy est toujours très soucieux de son image. Hein. Il ne voulait pas être sali par ça. Et alors, surtout, anecdote absolument incroyable, donc, autour du 15 juillet, il devait assister à un conseil d'administration du groupe Coca-Cola. Parce qu'il faut savoir que Jean-Claude Killy est administrateur du groupe Coca-Cola. Donc il y a une réunion à Atlanta, en pleine tourmente du Tour de France. Donc Jean-Marie Le Blanc lui dit, mais si tu pouvais m'épauler un petit peu, m'aider, parce que là les médias sont un petit peu excités. Et là Jean-Claude lui dit, mais je peux pas, là j'ai une réunion à Coca-Cola. Il faut savoir que les administrateurs, chaque fois qu'ils assistent à une réunion, eh bien, ils touchent ce qu'on appelle des jetons de présence. Voilà, donc d'où ma blague un peu limite. Quand on aime, on ne compte pas les jetons de présence. Voilà. Et donc le pauvre Jean-Marie Leblanc, lui, a dû faire le métier, comme on dit dans le milieu du cyclisme, tout seul. Bon, alors ça s'est pas très bien terminé pour Jean-Claude Killy. Avec ses affaires de dopage, ça a un petit peu entaché l'image du Tour de France, donc il s'est fait virer. Mais rassurez-vous, pour lui, il est parti avec une confortable indemnité de 50 millions de francs, 7,5 millions d'euros. Son bras droit, Alain Krentowski, est parti seulement avec 32 millions de francs, puisqu'il n'était que numéro 2. Voilà. Mais heureusement pour Jean-Claude Killy, qui n'a jamais supporté cet affront de s'être fait virer, il a été rappelé récemment par la patronne du groupe Amaury, Marie-Eudine Amaury, parce que le Tour de France, ça a eu payé, et c'est vrai que les audiences du Tour se sont un petit peu effritées depuis 2-3 ans. En 1997, l'audience moyenne du Tour de France était 5 millions de spectateurs hein, qui suivaient ça, y compris quand il ne se passe pas grand-chose, parce que quand même la particularité du Tour de France, c'est un vrai mystère pour moi, c'est que ça dure 3 semaines, il ne se passe rien quasiment pendant 3 semaines, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Moi j'adore le vélo, mais vous avez déjà une semaine d'étape de plaine où c'est vraiment son merde, vraiment, hein. Enfin, il ne se passe rien, il y a un vague sprint à l'arrivée qui dure 30 secondes, vous coltinez 6 heures de direct, et puis, voilà, et vous avez 10 secondes de spectacle. Après les étapes de montagne, on dit ouais, mais les étapes de montagne, ça déménage, il va y avoir des attaques. Oui, les attaques, à peu près 10 minutes dans le meilleur des cas. Là, on l'a vu la dernière, Contador a mis tout le monde d'accord, ça a duré 3 minutes, puis après, ça ne se passe pas grand chose. Voilà. Donc peut-être que les gens ont fini par comprendre, je ne sais pas, mais en 10 ans, donc, les audiences se sont beaucoup effritées. Donc 5 millions de spectateurs en moyenne en 97, 10 ans plus tard, c'est plus que 3,5 millions. Donc une baisse significative. Puis comme je vous le disais, quand on demande aux gens ce qui les intéresse le plus dans le Tour de France, ils vous répondent au dopage ou les paysages. Bon, c'est quand même pas très satisfaisant tout ça. Hein. Et donc Marie-Eudine Amaury, il rappelle Killy, qui était un obsédé du fric, en se disant, bah, lui, il va nous ramener à nouveau du pognon, c'est parfait. Et c'est l'époque où on commence déjà à parler, 2007-2008, il commence à y avoir des rumeurs autour du retour de Lance Armstrong. Lance Armstrong, c'était le bon temps, Lance Armstrong. Bon, tout le monde a compris qu'il se dopait, mais à l'époque de Lance Armstrong, il y avait des super audiences. Donc Jean-Claude Killy, qui est très bien introduit dans les milieux du cyclisme, et elle se dit il va nous ramener Lance Armstrong. Alors, Lance Armstrong revient l'an dernier, en 2008. Vous souvenez, ça a été largement médiatisé. Et, anecdote amusante, le Tour de France est parti de Monaco l'année dernière. Alors, l'alliance du Tour de France et de Monaco, moi, ça m'a un peu fait sourire. Moi, j'avais été interviewé par un journaliste de Monaco Hebdo, hein, hebdomadaire qui gagne à être connu, hein, enfin, qui n'est diffusé que dans la principauté. Et il me demandait qu'est-ce que ça vous inspire. Et moi, je lui disais, c'est un beau mariage. C'est le mariage d'un paradis fiscal et d'une course de dopé. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et il y avait un de mes confrères qui aussi a enquêté sur Lance Armstrong, qui persiflait un peu, qui disait, mais ce qui serait génial, c'est que Lance Armstrong soit déclaré positif à Monaco. Bon, ça ne s'est pas produit. Et il disait ceci, cela serait formidable, car la principauté de Monaco serait assurée d'être dans le feu de l'actualité dans le monde entier. Et il disait ça avec un petit peu de mauvais esprit. Donc le dopage, on l'aura compris, c'est un peu le cadet des soucis du groupe Amaury et surtout de sa présidente Marie-Eudine Amaury. Sa devise, ça pourrait être « moins on en parle, mieux on se porte ». C'est d'ailleurs la consigne qu'elle a transmise à tous les journalistes de l'équipe hein, qui appartient à son groupe, le journal L'Epic. Elle leur a transmis la consigne de ne plus trop parler du dopage, à tel point que le journaliste maison spécialiste du dopage, un certain Damien Récio, qui est un très bon journaliste, qui est l'auteur d'un des plus grands scoops de l'histoire du journalisme de sport, puisque le 23 août 2005, quelques semaines après la, la, la retraite de Lance Armstrong, l'équipe publie une enquête sur qui prouve que Lance Armstrong s'est dopé pendant le Tour de France 99. Alors évidemment, on peut s'étonner du timing, parce que l'article sort au bout de 3 semaines. Bon, moi, d'après mes informations, Damaresio a été obligé de... C'est du donnant-donnant. Il a pu le publier dans l'équipe, mais pas pendant le Tour de France. Voilà. C'est mieux que rien, vous me direz-vous. Hein. Voilà. Donc ce même journaliste, à qui normalement on devrait tresser des lauriers, un journaliste d'investigation qui sort un tel scoop, il devrait avoir sa place au Panthéon, il devrait être augmenté. Eh bien non, Mario De Lamori l'a placardisé. Et lui a dit en gros, bon, tu continues de travailler pour nous, mais tu ne génères plus de révélations. Donc en gros, le pauvre Damaresio, eh bien, il fait des comptes rendus, il va avec des congrès de l'Agence française de lutte antidopage, mais il sort plus de scoop. Et surtout pas pendant le Tour de France, hein, sinon il se fera fâcher. Voilà. Et cette nouvelle ligne éditoriale de l'équipe, eh bien, elle s'est traduite immédiatement en 2009. Avec l'arrivée de Lance Armstrong, Lance Armstrong n'a plus été le pestiféré qu'il était, puisque après ce scoop qui prouvait qu'il avait été positif, Lance Armstrong ne voulait plus mettre les pieds en France. C'était l'époque où il disait que les Français le détestaient. D'ailleurs, il n'avait pas de mots assez durs vis-à-vis de la France. Une fois, lors d'une émission de télé, il avait dit que les Français étaient tous des frustrés, qu'ils étaient jaloux des Américains. Donc, changement de discours. Lance Armstrong revient en France, on lui déroule le tapis rouge. Alors, un exemple de ce changement de tonalité au niveau du journal d'équipe, bon, je vous passe les détails, mais tous les journalistes, les responsables de la rubrique cyclisme de l'équipe ont été déplacés de la rubrique, on les a mis ailleurs, on a mis à leur place des journalistes beaucoup plus dociles, parce que souvent le grand public a l'image de journaux un peu monolithiques, mais il faut savoir que dans les journaux, il y a des luttes de pouvoir, hein. Et qu'en général, les journalistes un peu franc-tireurs, soit on les vire, soit on les met de côté, quoi. Voilà. Et ben, c'est ce qui s'est passé dans la rédaction de l'équipe. Alors, je vous citerai un seul exemple, c'est la fameuse affaire de ce qu'on appelle le Showergate, shower de douche, l'affaire de la douche. Parce que Lance Armstrong a pris une douche qui a pris des proportions absolument planétaires. Donc le 10 mars 2009, qu'est-ce qui se passe? Lance Armstrong est chez lui à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il prépare déjà le Tour de France à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc dans les Alpes-Maritimes, dans sa luxueuse villa. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Okay, ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui, c'est un inspecteur de l'Agence française de lutte contre le dopage qui vient faire un contrôle inopiné. Parce que le système aujourd'hui est le suivant: il y a des contrôles à l'arrivée des étapes du Tour de France et il y a aussi en amont et pendant toute l'année des contrôles inopinés. C'est comme ça qu'on arrive à coincer les tricheurs. Et c'est comme ça que certains tricheurs tombent, même si évidemment les tricheurs ont toujours une longueur d'avance sur les gendarmes. Mais bref. Et donc, il y a quelqu'un qui sonne. Alors, qu'est-ce que fait Lance Armstrong? Lance Armstrong, il joue les étonnés. Lance Armstrong, qui est quand même un vieux briscard. Hein. C'est un gars de 36 ans qui a eu une carrière avant. Et Lance Armstrong lui dit: attendez, je vais prendre une douche. Je suis à vous dans 10 minutes. Bon, ce qui était quand même un petit peu surprenant, puisque en principe, ça, c'est comme si vous vous faites arrêter pour un test d'alcoolémie. Vous dites: ah, je vais m'absenter pendant 10 minutes, je reviens. Non, normalement, le règlement veut que la personne qui est inspectée reste sous le regard de l'inspecteur. Parce que pendant qu'elle n'est pas là, elle peut s'injecter des produits pour faire baisser son taux d'hématocrite, des choses comme ça, hein, surtout Lance Armstrong. Bon. Donc lui, il prétexte le fait de prendre une douche. Et plus tard, il a raconté qu'en fait, il n'est pas allé prendre une douche. Il a appelé le président de l'Union cycliste internationale. Imaginez-vous le cycliste lambda amateur de 18 ans qui appelle le président de l'Union cycliste internationale. Bon, là, on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. Et donc, il appelle le président de l'Union cycliste internationale, un certain Pat McQuaid, un néerlandais très sympathique. Il lui dit: mais c'est qui ce gars qui vient me frapper à ma porte? Et donc, il se renseigne, le président de l'UCI, Pat McQuaid, il dit: mais non, mais c'est un contrôle, tout est normal. Voilà. Et donc, là, donc il sort de sa douche, enfin, qui était moitié douche et moitié conversation sur téléphonique, il lui dit: ok, vous pouvez me contrôler. Voilà. Donc, le contrôleur procède à son contrôle. Bon, alors ça fait l'objet d'un procès verbal de l'Agence française de lutte contre le dopage, puisqu'il y a une infraction caractérisée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un lobbying en coulisses. Il y a eu une intervention du ministre des Sports d'époque, Bernard Laporte, du groupe Amaury, qui était obsédé par l'audimat et par sa star Lance Armstrong. Et l'AFLD a dû se coucher. Et donc, il y a eu un rapport confidentiel qui n'a pas été publié. Tout ce qu'on sait, c'est que Lance Armstrong a envoyé une lettre à l'AFLD dans laquelle il se serait expliqué. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait une maîtresse de Lance Armstrong dans un placard? On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais quelque chose qui justifierait l'attitude pour le moins étrange de Lance Armstrong. Voilà. Et donc face à tout ça, l'équipe, je reviens à l'équipe, eh bien l'équipe s'est marrée. Non pas que l'équipe aurait dû verser dans la leçon de morale, mais l'équipe aurait pu s'étonner, diligenter une enquête. Et donc voici ce qu'a dit le sympathique Gilles Simon, chef de la rubrique cycliste, le nouveau, donc le gars qui est le doigt sur la couture du pantalon, respecte les consignes de sa patronne Marie de la Maury. Il a écrit ceci: si l'Agence française de lutte contre le dopage doit se payer Armstrong, qu'elle le fasse éprouvette au point, vous connaissez les éprouvettes, puisque c'est quoi, c'est théâtre éprouvette, hein, l'association, voilà. Qu'elle le fasse éprouvette au point, pas la loupe à la main et le nez sur les petites règles du règlement, en privant Lance Armstrong de tour pour une affaire aussi mesquine, en s'acharnant à débusquer le moindre écart, au risque qu'il soit anecdotique, la FLD aurait perdu de son crédit de gendarme du peloton. On n'arrête pas Armstrong pour un défaut de sonnette, concluait héroïquement Gilles Simon. Évidemment, il est plus facile de ridiculiser la FLD que s'en prendre aux puissants et à Lance Armstrong. En réalité, l'attitude générale l'attitude de l'équipe s'inscrit dans une démarche plus globale, dans une stratégie globale du groupe Amaury, visant à préparer le retour de Lance Armstrong. Parce que Lance Armstrong, il traînait quand même un certain nombre de casseroles, puisque le fait qu'il était dopé était prouvé. Et lui, pour revenir, pour être un nouveau persona grata, il lui fallait des garanties. Et donc, il a négocié en haut lieu avec l'Union cycliste internationale et avec le groupe Amaury et avec le journal de l'équipe le fait d'être bien accueilli, d'être bien accepté. D'où l'attitude pour le moins conciliante de l'équipe. D'ailleurs, le directeur sportif de Lance Armstrong, le Belge Johan Brunel, qui est celui lui-même qui était son directeur à l'époque où il était à l'US Postal, il a vendu la mèche. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller franco. Il a dit: Lance n'ira sur une course que s'il peut évoluer dans une ambiance sereine. S'il n'est pas exclu qu'il fasse le tour, cela devra être dans une atmosphère amicale pendant la polémique ou l'adversité se permanente. Pour Lance Armstrong, une atmosphère amicale, ce sont des médias aux ordres. C'est ça, hein, sa vision du journalisme. Voilà. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut interpréter le changement radical intervenu dans la gouvernance mondiale du cyclisme. Parce que le cyclisme, c'est un gros gâteau, c'est beaucoup d'argent, et c'est beaucoup de gens qui aimeraient s'approprier le gâteau de la Société du Tour de France. Et notamment l'Union Cycliste Internationale, qui pendant des années essayait de mettre la main sur les bénéfices. Pendant des années, le Hein Verbruggen, le Dark Vador dont je vous parlais, il s'est battu devant les tribunaux avec le groupe Amaury. Parce que la particularité du cyclisme, et c'est absolument unique, c'est que en termes de pouvoir, la Fédération Internationale n'a pas de pouvoir. Si vous prenez le foot, qui dirige le foot mondial? C'est la FIFA, la Fédération Internationale de Foot. Je suis en train de faire une petite enquête sur eux d'ailleurs en ce moment. Bon, et voilà. Bon, ils sont totalement vendus à des groupes privés, hein, comme hier Adidas ou d'autres. Mais c'est quand même une gouvernance, on pourrait dire, semi-publique. Or, dans le cyclisme, c'est pas ça. Historiquement, les épreuves cyclistes ont été créées par des groupes privés. On dirait qu'il y a une légitimité, c'est vrai, du propriétaire, il y a le droit de propriété. Et les fédérations internationales sont des nains politiques et économiques. Et ça, Hein Verbruggen, il ne le supportait pas. C'est pour ça qu'il a créé ce qu'on appelle le Pro Tour, qui est une espèce de ligue fermée. C'est quoi l'esprit du Pro Tour? L'idée du Pro Tour, c'est de garantir des résultats à des équipes. Parce que ce qui est insupportable pour les businessmen, c'est la glorieuse incertitude du sport. Ce qui fait le charme du sport, c'est que on n'est jamais sûr du résultat. Enfin, il n'y a que les naïfs pour penser qu'aujourd'hui, il y a une glorieuse incertitude du sport. Moi, je m'intéresse pas mal au foot. Quand on voit qui gagne la Coupe d'Europe des clubs champions, la Ligue des champions, c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui ont le plus d'argent. Le système de poule fait que les petits, même s'ils arrivent à créer une surprise, comme il faut qu'ils battent 5 fois le meilleur et qu'ils ont un effectif 10 fois moins important, finalement, ils ne gagnent jamais. Eh bien, Hein Verbruggen, il a fait le même système. Un système de ligue fermée où on garantit, moyennant une redevance, à des équipes de participer toujours aux épreuves de premier plan, ce qui limite les effets du hasard. Voilà. Et par la même occasion, Hein Verbruggen voulait mettre la main sur l'argent du Tour de France, sur les droits du Tour de France. Donc il y a eu comme ça des procès, etc. Et comme par enchantement, en 2008, alors que la Société du Tour de France avait gagné la partie contre l'UCI, eh ben, ils enterrent l'âge de guerre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse la paix? Eh bien, ça a un rapport avec Lance Armstrong, ça a encore un rapport avec l'argent. Et ça, c'est encore le sympathique Jean-Claude Killy. Je trouve tout le monde sympathique, vous avez remarqué. Donc, Jean-Claude Killy, donc, qui revient dans le giron du Tour de France, et qui dit dans le journal Challenge: il est très envisageable que l'Union Cycliste Internationale fasse appel à l'expertise d'Amaury Sport Organisation pour des courses à venir. L'expertise, c'est des expertises en matière de marketing. Et oui, car Hein Verbruggen a convaincu Marie-Odile Amaury de l'intérêt de faire ami-ami avec l'UCI pour faire de l'argent en cyclisme, dans le cyclisme et au-delà, avec le CIO. En ce moment, il y a les Jeux Olympiques de Vancouver. Aujourd'hui, qu'est-ce qui rapporte de l'argent dans le sport? Bon, c'est évidemment le foot, hein, c'est ce qui rapporte. À côté du cyclisme, c'est pas grand-chose. Et c'est aussi les sports olympiques, c'est aussi le CIO. Or, le groupe Amaury, dans la stratégie, est une stratégie de diversification. Dans le cyclisme, c'est bien, mais c'est pas assez gros pour eux. Ils veulent se diversifier. Donc, grâce à cet accord avec l'UCI, ils vont avoir une plus grande visibilité et pouvoir élargir le marché en termes de marketing du sport, donc avec le CIO. Et c'est dans ce contexte-là que le groupe Amaury a racheté à l'automne 2008 une société qui s'appelle Helios, qui est spécialiste du marketing du sport et qui va donc signer des contrats avec le CIO. Voilà. Donc, je vous ai tracé un panorama qui n'est pas très reluisant. Oh, je vais pas entrer dans les détails. Oh, peut-être cette petite description du numéro 2 du groupe Amaury, Alain Krentowski, qui est administrateur du groupe Amaury, lui aussi. Un ancien président du normalement c'est du off, je suis pas censé le dire, mais bon, comme on est entre nous, donc c'est Patrice Clerc lui-même, ancien président du groupe Amaury, qui a été viré en septembre 2008 parce que lui il voulait laver plus blanc que blanc, il voulait moraliser le cyclisme, mais ça c'était plus trop bien vu au sein du groupe Amaury. Et il me disait concernant son successeur Alain Katowski, c'est un obsédé du fric à tout prix. Et il me disait autre chose, il me disait, vous comprenez, l'édition 2008 du Tour de France, c'était pas intéressant pour Marie de Lamoury, parce que c'était une édition qui finalement a été relativement propre et qui a vu s'opposer des seconds couteaux. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas s'il y a des amoureux du vélo ici. Le Tour de France 2008 est gagné par Carlos Sastre, c'est un personnage pas très médiatique. Le numéro 2, c'est Cadel Evans, qui est plutôt considéré comme un coureur propre. Donc c'était pas une édition très sexy, donc il fallait des Lance Armstrong, il fallait des Contador. Parce que je parlais de Lance Armstrong, je suis pas d'anti-américanisme. Contador, il a fait partie de l'équipe de Sainz, Manolo Sainz, qui était aussi le directeur de l'équipe de Jalabert, c'est l'affaire Puerto, donc c'est l'affaire d'un trafic de produits dopants. C'est tout sauf un coureur propre. Donc si vous voulez, les principales figures du cyclisme aujourd'hui sont des dopés notoires. Et donc ce sont ces figures-là que le groupe Amaury veut mettre en avant, simplement parce que il faut que la machine tourne et il faut que l'audience suive. Voilà. J'en ai terminé avec mon petit exposé liminaire. Si vous avez des questions. Bon, j'ai pas été trop long.
Ça marche? Ouais. Si vous voulez poser des questions, intervenir, voilà, hein, c'est le principe aussi du. Attendez, il y a un petit fonctionnement. C'est comme on enregistre les conférences et les débats sont enregistrés et ensuite c'est mis en ligne sur Internet et les gens, ça leur permet d'écouter un petit peu ce qui s'est passé ici. Donc voilà, il faut parler dans le micro. Donc je vous le passe.
Oui, je disais, c'est facile aussi de salir tout le monde, tous les coureurs ne sont pas dopés. Il y a quand même une moralisation maintenant qui se fait au niveau du Tour de France et les sponsors maintenant essaient de faire en sorte d'engager passer des contrats avec les sportifs et de mettre en avant justement le fait qu'ils ne se dopent pas. Donc il y a eu un fort dopage, c'est vrai, dans le passé, mais de moins en moins quand même maintenant, même s'il y en aura toujours. Comme vous le dites, ils ont toujours une longueur d'avance sur les contrôles, donc ça, effectivement. Mais c'est pas tout noir non plus.
Non, ce que vous dites est tout à fait juste. Je n'ai pas dit que tout était noir. Je n'ai pas dit non plus que tous les coureurs étaient dopés. Non, ce que je dis simplement, et c'est malheureusement avéré, c'est que pour gagner le Tour de France, il faut se doper. Si vous voulez gagner le Tour de France. Donc les figures de proue du Tour de France sont dopées. Maintenant, il y a un certain nombre de coureurs qui ne sont pas dopés. Et ceux-là, vous les retrouvez plutôt en queue de peloton. Dans La Grande Imposture, un livre d'entretien que j'ai signé avec Jean-Pierre de Mondenard, qui est le médecin du sport, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux du sport. Mondenard, c'est un obsédé du dopage. Ça fait 35 ans qu'il ne fait que ça. Il a transformé son pavillon en banlieue parisienne, en 3 étages. Il a viré les livres de sa femme, tous ses objets personnels. Il n'y a que des livres sur le dopage et des dossiers. Et c'est lui sa formule, c'est de dire la lutte anti-dopage labellise les tricheurs. En fait, ce qui se passe, c'est que donc les tricheurs ont toujours une longueur d'avance. La plupart des produits dopants ne sont pas détectables, même si les progrès de la science font qu'on arrive à détecter certains produits, mais toujours avec une longueur d'avance. Et là, je lisais dans l'équipe il y a 2 jours que l'hormone de croissance vient d'être détectée pour la première fois. Et donc, il y a un joueur de rugby à 13 qui a été détecté. Mais bon, le rugby à 13, c'est quand même pas un sport dominant. Hein. Et c'est vrai que tous les coureurs ne sont pas dopés et qu'il y a eu de brillantes exceptions. Moi, il y a un coureur pour lequel j'ai beaucoup d'affection, d'estime et d'admiration, qui s'appelle Christophe Basson. Christophe Basson, alias Babas, qui était un coureur extrêmement courageux des années 90, un coureur très doué, qui a toujours refusé de se doper. Qu'est-ce qui lui est arrivé en 99? Les médias en ont fait un espèce de héros ahuté de la lutte antidopage. Il avait une chronique dans Le Parisien. Et il a été mis au banc du peloton. Et Lance Armstrong lui-même, bon, ça c'est assez connu, bon, on le raconte dans La Grande Imposture. À un moment donné, lors d'une étape, une étape sur le plat où il se passait pas grand-chose, comme enfin il se passe jamais rien sur le Tour de France en gros, hein, il se met à sa hauteur et là il l'intime, il lui dit mais qu'est-ce que tu racontes, tu salis le Tour de France, arrête de parler, ferme ta gueule. Il lui dit, il l'intimide. Parce que Lance Armstrong, c'était en fait les patrons du peloton, ils sont dans un système un peu mafieux, quoi. C'est un peu le mal dominant, tout le monde doit se la fermer, etc. Et Lance Armstrong est très comme ça. Et donc Basson a dû quitter le Tour. Il y a une espèce d'omerta. Vous me direz, c'était en 99. Est-ce que ça a changé? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il y a une plus grande médiatisation, c'est que les coureurs font attention à ce qu'ils font. Mais quand on regarde, malheureusement, alors vous me dites, il y a les sponsors. Ah, ça, c'est vrai. Ça, les sponsors, c'est pas très bon pour leur image. Mais honnêtement, les sponsors, ce qui les intéresse surtout, c'est la visibilité médiatique. C'est que tant que les audiences ne baissent pas, ils ferment les yeux. Prenons le dernier Tour de France. Vous me dites, s'il y a une moralisation, il y a moins de dopés. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a des contrôles qui sont négatifs qu'il n'y a pas de dopage. Ce que disent les instances du cyclisme, et à contrario, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de cas positifs qu'il y a plus de dopés. Et effectivement, on peut considérer que le cyclisme est un des sports les plus propres, c'est évident, puisque les contrôles sont plus efficaces. Ça, c'est incontestable. D'ailleurs, une des raisons qui font que les cyclistes français obtiennent de mauvais résultats, c'est pas pour dire que les Français sont plus vertueux, c'est vrai que du fait que l'affaire Festina s'est déroulée en France, la réglementation française est beaucoup plus sévère, et c'est aussi pour ça que les coureurs français, ça, ils ont pas de chance, hein, ont moins de résultats. Bon, quand on voit les résultats des coureurs espagnols, moi j'ai la nationalité espagnole, donc on peut pas me soupçonner de jouer contre, enfin d'être chauvin sur ce coup-là. Bon, quand on voit le laxisme dont font preuve les autorités espagnoles sur l'affaire Puerto, le juge espagnol qui fait tout pour préserver les coureurs nationaux, bon, c'est un vrai scandale, la législation espagnole est beaucoup plus laxiste, et quand on regarde les résultats des coureurs espagnols, quand il y en a 8 sur les 15 premiers, bon, on a compris, il n'y a pas un gène du coureur espagnol qui fait qu'ils sont meilleurs en montagne. Bon, ça a été longtemps le cas des coureurs italiens qui avaient une longueur d'avance en matière du dopage, des Hollandais, bon voilà. Donc sur le dernier Tour de France, qu'est-ce qui s'est passé? Lance Armstrong, Contador n'ont pas été positifs. Mais on a appris récemment, en novembre 2009, suite à un rapport de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui a eu un certain nombre de dysfonctionnements en matière de contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un peu, c'est un peu l'affaire de la douche, Showergate. Armstrong a refait le même coup pendant le Tour de France. Et alors il y a des contrôleurs qui racontent qu'il y a un certain nombre d'inspecteurs peu scrupuleux qui se sont ramenés à l'hôtel de l'équipe Astana. L'équipe Astana, c'était l'équipe de Lance Armstrong et de Contador. Bon. Aujourd'hui, Armstrong est parti, il a changé d'équipe, bon, peu importe. Et donc, vous avez notamment, il y a un matin, où il y a deux inspecteurs, pas très zélés. Donc, ils arrivent à l'hôtel, normalement. Dans ces cas-là, un inspecteur arrive, il fait un contrôle inopiné. Il va tout de suite dans les chambres des coureurs. C'est comme ça que ça se passe. Bah là, vous avez le directeur qui leur propose de boire un café. C'est comme ici, c'est très convivial. Donc les gars restent une heure au comptoir. Une heure, hein. Donc les gars, pendant une heure, ils ont le temps de se débarrasser de tous les produits, hein. Non mais en une heure, ils ont le temps de faire trois fois le tour de la ville, hein. Donc ça, c'est un dysfonctionnement évident. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une injonction contradictoire entre, d'un côté, l'Agence française de lutte contre le dopage, qui est une agence qui fait très bien son travail, l'Agence mondiale antidopage, qui est une agence indépendante des pouvoirs, même si elle est rattachée au CIO, au Comité international olympique, et l'UCI, l'Union cycliste internationale, dont les dirigeants sont totalement de mèche avec Lance Armstrong et de mèche avec le sport business. Et ce qui se passe, c'est que les inspecteurs sur les courses, en fait, ce sont des inspecteurs de l'UCI, appointés par l'UCI. Alors que lors des contrôles inopinés, ce sont des inspecteurs de l'AFLD. Donc la consigne a été d'être cool avec Astana. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un rapport officiel de l'AFLD qui a été démenti par l'UCI. Ils sont à nouveau en guerre, ils s'étaient rabibochés. Donc si avant, en gros, vous aviez un axe français, franco-français, avec d'un côté l'Agence française de lutte contre le dopage et Amaury Sport Organisation, à l'époque où ASO, au moins dans le discours, était pour le dopage, et de l'autre côté, il y avait l'UCI, qui a toujours été très laxiste. Aujourd'hui, l'UCI, maintenant, s'est allié à ASO. Si vous voulez, ils ont joué leur cutie à ASO, ils se disent, la lutte contre le dopage, on s'en fout, il y en a marre, on veut remonter les audiences. Parce qu'il y a un moment donné où le fait de s'afficher contre le dopage, c'était bien vu. Mais aujourd'hui, comme le dopage est tellement banalisé, bon, et comme comme le groupe Amaury a des difficultés pour faire de l'argent, non pas sur le Tour de France, mais avec ses journaux, puisqu'ils perdent beaucoup d'argent avec le Parisien d'équipe. Donc ils veulent faire un maximum de cash sur le Tour de France. Donc ils mettent un mouchoir sur leurs principes. Voilà. Maintenant, je vous le redis, vous avez parfaitement raison. Moi, je ne dis pas que les sponsors ne sont pas scrupuleux. Je ne dis pas que tous les coureurs sont dopés. Il est bien évident que non, il y a des coureurs parfaitement honnêtes. Simplement, si vous voulez absolument gagner le Tour de France, c'est le coureur autrichien, comment s'appelle-t-il ? C'est Bernard Coll, qui a terminé troisième du Tour de France 2008, qui a tout avoué à l'automne 2008. Il s'est confié à l'équipe. Il a raconté, là on parle de 2008, on parle pas de 99, il a raconté les poches de sang qu'on fait venir, qu'on planque dans des frigos, qu'on s'injecte juste avant le tour. Ça, c'est des récits qu'on entendait dans les années 90. Hein. Donc, si vous voulez, il n'y a rien qui a changé. Mais les moyens employés par les fraudeurs sont de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiqués. Le problème, c'est que la plupart, encore une fois, c'est ce que dit Jean-Pierre de Mondard dans le livre là, que vous avez là, dans les annexes, il y a en annexe tous les produits qui sont indétectables. Et vous en avez, enfin, les 80% des produits sont indétectables. Vous avez l'hormone de croissance, bon, qui serait détectée. Le problème de l'hormone de croissance, c'est que vous avez, entre le moment où elle fait effet pendant plusieurs jours, mais vous avez quoi, un créneau de 24 heures pour la détecter. Donc c'est extrêmement court. Donc si le coureur est contrôlé 36 heures après, il est négatif. Voilà. Mais non, vous avez raison, je ne dis pas tous pourris, tous dopés. Mais si vous voulez gagner le tour, tous les vainqueurs du tour, et ça c'est le journaliste Pierre Balester qui a fait un très bon bouquin, Tempête sur le tour, il a fait un tableau avec Mondard, hein, Jean-Pierre Mondard, le médecin, c'est lui qui lui a fait le tableau, sur les 60 derniers vainqueurs du tour. En fait, à part Greg LeMond, bon, on n'est pas complètement sûr qu'il est dopé, mais en gros, tous les coureurs étaient dopés, quoi. En gros, Anquetil a avoué, Armstrong s'est avéré, Coppi a avoué, ils ont tous avoué, hein, donc, ils ont tous avoué ou été contrôlés positifs. Voilà. Donc les vainqueurs, pour gagner, il faut se doper. Ce qui n'enlève rien au talent des coureurs. Hein. Dans la grande proportion, on le dit, Lance Armstrong, par ailleurs, est le meilleur. C'est le meilleur d'entre les tricheurs. Voilà. Mais c'est quand même le meilleur. Eddie Merckx était un tricheur, mais Eddie Merckx était un très grand coureur. Je veux dire par là que si tous les coureurs avaient été à égalité sans se doper, Merckx aurait quand même gagné. Enfin, Merckx, il a gagné une course sur trois qu'il a disputée, il l'a gagné. C'était un coureur monstrueux, un immense talent. Mais Merckx s'est dopé. Il a été contrôlé positif, il a reconnu. Voilà. Le problème, c'est la transparence. Voilà.
Oui, je voulais l'intervention par rapport aux sponsors. Je crois que les sponsors, il y a encore des victimes, c'est encore les coureurs cyclistes. Les sponsors s'achètent une vertu en faisant signer des contrats en disant on va exclure tout dopé, on lui enlève toutes les primes, alors qu'ils savent très bien, peut-être à part une ou deux ou trois équipes françaises qui pratiquent une politique, une pédagogie du non-dopage avec un suivi longitudinal, si on veut savoir un dopé quand on fait du haut niveau, c'est très simple. Le gars, il a des tests le 15 mai. Si trois semaines après, il explose ses tests physiques, un gars qui a 28 ans sait très bien qu'il est passé par la case dopage. Or ça, les sponsors, ils n'en ont rien à foutre. C'est dope-toi, mais ne te fais pas choper. Par contre, si on fait choper, on s'achète une vertu en sortant un contrat bidon. Parce qu'il y a encore des grandes équipes qui tolèrent et la majorité... que leur coureur ne soit pas suivi par le médecin de l'équipe. Il y a encore des grandes équipes qui font des stages et qui laissent aller les autres en stage au Mexique ou n'importe où. Donc ça, c'est une totale hypocrisie de la part des sponsors. Ça veut dire ne te fais pas attraper. Et par contre, derrière, les coureurs sont victimes de cette course parce que, à la limite, je dirais que presque, ils sont pris dans l'engrenage et ils ne peuvent pas faire tellement autre chose. Ou alors ils acceptent d'être comme Christophe Basson, d'être quelqu'un qui n'avait peut-être pas le talent pour être gagnant d'un Tour de France un jour, mais qui aurait pu finir et faire une très très belle carrière, et d'être 40e du Tour de France. Mais c'est pas évident quand c'est sa passion. Et puis en plus, on gagne pas.
En dehors de Christophe Basson, on pourrait citer le cas de Gilles Delion, qui est un coureur moins connu, mais qui a fait carrière avant Christophe Basson.
Oui, il s'est fait choper quand il est parti faire du VTT. Quand même.
Ah bon, Delion ? Ah, je savais pas.
Pas sur un truc grave, mais...
Parce que Delion a quand même gagné le Tour de Lombardie. Quand même, Delion a terminé 11e du Tour de France. C'était vraiment le Basson du début des années 90. Lui aurait pu faire vraiment une très belle carrière par rapport à Basson. Non, alors, sur la notion de sponsor.
Delion, il y avait un autre problème aussi. C'est que Delion, il était
Gilles de Lyon était, je crois que son père avait une très grosse pâtisserie à Annecy, donc c'est pas quelqu'un qui courait pour gagner sa croûte. Et ça, c'est énorme quand même. Il y en a quand même qui sont... Le pognon, c'est important. Hein. Quand vous avez 20 ans, que vous avez fait que ça, qu'on vous propose l'usine à 1000 euros ou éventuellement 5-6 000 euros pour être partenaire d'Armstrong, vous n'avez pas automatiquement l'esprit olympique peut passer derrière. Et nous tous, il faudrait aussi qu'on se pose la question si on avait les mêmes tentations dans notre boulot de tous les jours. Parce que ça, c'est important.
Non, mais il ne s'agit pas de stigmatiser les coureurs. Moi, je ne le fais pas. Moi, je ne me place jamais sur le terrain de la morale. Hein. Alors, Jean-Pierre de Mondenard, qui est un petit peu ma référence à la matière, ça fait 35 ans quand même, mais il dit toujours, qu'est-ce qui crée le dopage ? Ce qui crée le dopage, c'est d'abord la compétition. C'est d'abord la compétition. Ensuite, la médiatisation, ensuite l'argent. Mais c'est pas que l'argent. Oui, moi je suis persuadé que quelqu'un comme les grands du cyclisme, donc Merckx, Anquetil, Armstrong, ils font pas ça pour l'argent, c'est pas leur premier moteur, ils font surtout ça pour la gloire, pour être les meilleurs tout simplement. Et ça c'est un moteur extrêmement puissant. Et bon après gagner de l'argent évidemment ça arrive après, mais c'est comme en politique, c'est comme on dit les hommes politiques, ils font ça pour l'argent. Moi je crois pas, on fait fausse route. Il y a d'autres drogues. Après, alors pour en revenir à la question des sponsors, je ne sais pas si par sponsor vous entendez les sponsors des équipes ou les sponsors du Tour de France. Bon,
sponsors des équipes.
Ouais, voilà. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les équipes qui courent les courses cyclistes ont un statut d'association en général. Et elles ne sont pas connues sur leur vrai nom. On parlait de Festina. En fait, le vrai nom de Festina, ce n'était pas Festina. Mais ces équipes-là, qui ont un nom quelconque, comme je sais pas, l'Abbaye du Jouir, par exemple, elles sont sponsorisées par un sponsor et elles sont connues par le nom de leur sponsor. Voilà. Alors, c'est compliqué. Vous dites les sponsors ferment les yeux. Pas forcément. Je crois vraiment qu'il y a pas mal de sponsors qui ont essayé de faire le ménage. Maintenant, c'est vrai que vous avez raison. Quand on veut faire le ménage, on peut le faire vraiment. Il y a différentes façons de le faire. Si on se contente de faire signer un bout de papier, c'est quand même limité. Après, vous avez la question du passeport sanguin. Vous parliez du suivi longitudinal. Alors, c'est vrai ce que vous dites. Si, on aurait les moyens de le faire. Mais pour ça, il faudrait avoir tous les paramètres. Ce qui manque dans le cas des professionnels, c'est les paramètres des coureurs quand ils étaient jeunes. Parce que si on prend le cas de Contador, vous avez pas mal de physiologistes qui ont, je pense à quelqu'un comme Frédéric Grapp qu'on cite dans La Grande Imposture, qui est physiologiste, qui est spécialiste, qui travaille pour qui est un consultant pour l'équipe française des Jeux, qui se targue d'être une équipe très propre. Et bien, lui me disait que Contador, ce qui nous manque, c'est ces paramètres de jeunes, quoi. C'est-à-dire, en fait, dans l'idéal, il faudrait mesurer les performances des sportifs dès l'âge de 15 ans. Le problème, c'est que en fait, on s'intéresse à un coureur que quand il est un peu connu, qu'il a gagné des courses. On ne sait pas quel a été son passé. Donc, au moment où on commence à mesurer ses performances, il est déjà dopé. Oui, à la limite, il faudrait les prendre quand ils ont tous 15 ans, mais vous imaginez. Genre, ils sont amateurs. Allez, toi, on va te mesurer. Allez, tiens, on va te prendre. Donc, on ne saura jamais vraiment. Mais alors, dans le cas d'Armstrong, c'est intéressant. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a des données d'Armstrong jeune. Parce que quand Armstrong était encore amateur, qu'il était coureur aux États-Unis, qu'il était dans l'équipe Motorola, il a été l'objet d'une expérimentation d'un physiologiste américain quand il avait 20 ans. Ce qui fait qu'on a les données d'Armstrong de 20 ans à 35 ans. Et donc, on a toutes les données qui prouvent qu'il est dopé, en fait. Hein, c'est... voilà. Non, mais comme vous dites, hein, ça rejoint ce que vous dites. Donc, dès lors qu'on a des paramètres, des données, disons, sur la longueur, sur la durée, effectivement, si on voit que sur un coureur, ce qu'on peut voir, c'est un coureur qui est moyen sur la montagne, tout d'un coup, il se met à exploser des scores en montagne, alors qu'il n'a pas les bons paramètres sanguins. Donc, normalement, on tire la sonnette d'alarme. C'est-à-dire ce que fait l'UCI. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. On disait tout à l'heure, est-ce qu'ils sont tous dopés ? Quand on voit quels sont les coureurs qui se font prendre, ce sont souvent des seconds couteaux. C'est jamais le numéro un. Dans le cas d'Armstrong, on se pose toujours la question, parce que c'est vrai qu'Armstrong, avant d'être un super coureur du Tour de France, était un coureur de classique. Il n'était pas très bon en montagne. Bon, il a toujours eu des prédispositions pour le contre-la-montre. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'en montagne, etc. Probablement que c'est un effet du dopage. Il a lui-même changé physiologiquement, mais c'est vrai que le dopage a été un plus pour lui. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est tous les journalistes sportifs et tous les experts ne sont pas d'accord. Il y a un côté qui, moi, me hérisse profondément, c'est le côté c'était mieux avant. Moi, je vous ai dit, le Tour de France, il s'est arrêté à un âge d'or, j'allais dire sur le plan littéraire, sur le plan de la convivialité des années 50-60. Ça ne veut pas dire que dans les années 50-60, il n'y avait pas des tricheurs. Vous avez des tricheurs sympathiques, il faut quand même le dire. Voilà. Donc il y avait des tricheurs des années 50-60, qui étaient sans doute plus sympathiques que Lance Armstrong, mais enfin, c'était quand même des tricheurs. Voilà. Donc quand j'entends dire sous la plume, par exemple, d'un Philippe Brunet, qui est un journaliste de l'équipe très talentueux, qui est un peu le Pierre Chani ou l'Antoine Blondin d'aujourd'hui, avec un peu moins de talent, mais du talent quand même, hein. Il vous dit, en gros, jusqu'à la fin des années 80, le cyclisme, c'était encore un cyclisme à la papa. Et ce qui a changé la physionomie du cyclisme, c'est l'EPO. L'EPO, le dopage sanguin. Et ça a vraiment changé la donne. C'est vrai que l'EPO a changé les performances, mais ça n'a pas changé la hiérarchie. C'est qu'aujourd'hui, un vainqueur du Tour de France, il le gagne avec l'EPO. Non, ça n'a pas changé la hiérarchie. Fignon, c'est ce qu'il dit dans son livre. Il dit oui. Alors, évidemment, il se donne le bord. Il dit, jusqu'au début des années 90, les grands coureurs, c'était des seniors. Évidemment, lui, il s'inclut dedans. Fignon a été positif aux amphétamines, comme les autres, et il a probablement pris de l'OPO. Voilà. Et pour en revenir à ce que vous disiez sur les sponsors, oui, les sponsors ferment les yeux. Ceci étant, les sponsors ne sont pas les principaux responsables. Il faut quand même le dire. Bon, j'ai pas mal critiqué le business dans le sport. Ce n'est pas les principaux responsables. Non, les principaux responsables, c'est dans l'ordre. Amaury Sport Organisation, eux, ils dénient. Ils disent toujours, mais attendez, nous, on n'est pas l'organisateur, c'est lui-ci. Non. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Donc c'est un, ASO, deux, l'UCI. Il ne faut pas non plus dire que l'UCI n'est pas responsable. Or, dans les médias, en général, on dit, surtout dans l'équipe, évidemment, on dit premier responsable UCI, l'ASO n'est pas responsable. Non, donc ASO et l'UCI. Il se trouve qu'aujourd'hui, ils sont main dans la main. Donc on voit qu'ils sont les responsables. Après, les coureurs, effectivement, ils veulent gagner de l'argent. J'allais dire, moi, même Lance Armstrong, moi, je ne lui jette pas la pierre. Lance Armstrong, bon, c'est un tricheur, il profite du système. Lui, c'est vrai qu'il est. Là où Lance Armstrong est beaucoup plus fort que les autres, c'est que c'est pas seulement un immense coureur, c'est pas quelqu'un d'extrêmement talentueux et intelligent, parce qu'il faut pas lui enlever ça. Hein. C'est vraiment un très grand pro. C'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard. Ça fait partie aussi. C'est aussi une de ses recettes. Et c'est en plus quelqu'un qui s'est mis dans la poche le pouvoir sportif. C'est un proche d'Arne Verbruggen. C'est un proche de l'UCI. Et c'est lui-même un businessman. Bon, il a créé sa fondation Life Strong. Il a eu ce coup de génie de se mettre en avant avec le fait qu'il soit un rescapé du cancer. Ça, on le décrypte dans le livre. On dit, oui, il a eu un cancer, mais il a eu un cancer des testicules qui est le cancer le plus facile à guérir. On ne dit pas que ce n'est pas une saloperie, le cancer des testicules, mais c'est un cancer de l'homme jeune. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a un cancer des testicules, il s'en sort dans 98% des cas. Bon, dans le cas d'Armstrong, c'est un peu douloureux. Il a eu une ablation d'un testicule, etc. Bon, voilà, il a souffert. Mais il a quand même eu des métastases au cerveau. Il s'en est quand même sorti. Généralement, quand on a des métastases au cerveau, on ne s'en sort pas, quoi. Donc il en a beaucoup rajouté. Enfin, le fait que Armstrong soit revenu au plus haut niveau, ça n'a rien d'exceptionnel. Après, il a instrumentalisé le cancer pour faire de l'argent, pour forger un petit peu son image. Sans ça, il est très américain, extrêmement doué. Et c'est ça aussi qui lui vaut une totale impunité. Mais sur le fond, Armstrong mérite d'avoir gagné ces 7 Tours de France. Hein, parce que c'est vrai qu'en France, il y a eu une campagne pour dire Armstrong ne devrait pas être le vainqueur du Tour. Quand on voit qui a été le deuxième, la plupart du temps, c'était Yann Ulrich. Yann Ulrich était aussi dopé que lui. Hein, donc. Simplement, Yann Ulrich, lui, il s'est fait prendre une fois, pareil, aux amphétamines. Et puis, il a été impliqué dans l'affaire Puerto. Donc, voilà, ça répond toujours. Les principales figures de proue, enfin, les figures de proue, ont tout été pris les doigts dans la confiture. Vous aurez deux réponses.
Peut-être. Alors, la première, c'est que quand on parle du dopage dans le sport, il faut savoir que ça existe dans tous les métiers. Par exemple, moi, les journalistes, on leur demande aussi des performances. Les maçons, ils picolent.
Les journalistes aussi picolent, mais de moins en moins.
Comment ça s'appelle ? Les journalistes, ils prennent de la cocaïne. Enfin, il faut savoir que, étant donné qu'on est dans le culte de la performance aujourd'hui, tout le monde a malheureusement, on est quand même un des premiers pays au monde à consommer le plus de psychotropes. Donc, il n'y a pas à s'étonner qu'effectivement, étant dans ce culte-là de la performance, on ait besoin de support. Et puis, la deuxième question, je ne sais pas si c'est une question, c'est que moi, je suis très étonnée de toujours constater que... Alors, tout le monde sait qu'on triche, tout le monde sait qu'on se drogue, tout le monde sait que ça rapporte de l'argent. Et comment se fait-il que... Alors, peut-être que c'est la télévision qui véhicule ce genre de choses. Mais moi, je m'étonne, c'est que tous ces gens, les hommes en particulier, parce que le sport, ça touche quand même plutôt le monde masculin, le foot,
le cycliste. Mais à quoi, enfin, quand on, à qui on s'adresse, quelle partie du cerveau on s'adresse, quand on voit qu'effectivement, il y a des gens qui spéculent sur l'audimat et qu'on se dit, bon, on gagne de l'argent parce qu'il y a X personnes qui va participer, qui va regarder. Moi, je... Et puis, alors, je pense aussi que ça fait sûrement appel à, au fait qu'on n'est pas nous-mêmes dans la vie. On a une vie un petit peu, comment, un peu morne. Et qu'effectivement, oui, voilà. Est-ce qu'on ne transpose pas à travers les victoires des sportifs, des stars, est-ce qu'on ne transpose pas cette, justement la médiocrité de la vie voilà.
Oui, c'est vrai qu'il y a un côté, on devient héros par procuration. Sur ce que vous avez dit là sur le premier point, je souscris tout à fait. Hein, tout le monde se dope hein, d'une certaine manière. Hein. Enfin, ceux qui veulent gagner en tout cas. Alors Mondenard, l'incontournable Mondenard, que je cite toujours, hein, c'est un peu mon mentor, mon maître en pensée. Il aurait pu être là ce soir, mais remarquez, il ne m'aurait pas laissé la parole. Hein. Mondenard, il m'a fait état d'une étude... ça rejoint vraiment ce que vous dites, qui a été publié aux États-Unis, qui a été fait auprès d'étudiants américains sur un campus, je crois que c'est en Virginie. Et le résultat était effarant, je crois que c'était en gros 70% des étudiants reconnaissaient avoir pris des drogues quoi, pour leurs examens. 70%. Bon, des degrés divers, hein, ça va du je prends un petit remontant ou alors j'en prends toutes les nuits. Moi, j'ai fait quelques jours de prépa d'hypocagne. Après, quand j'ai quitté ce monde, c'était un peu. Il y avait que des Lance Armstrong qui voulaient tous terminer à Normal Sup, donc je suis vite parti. Mais moi, je me souviens, j'avais pas mal de condisciples qui allaient au cacheton, quoi. Hein. Ça, bon, voilà. Donc, vous avez raison. Dans le monde de l'entreprise, alors les journalistes, oui, oui, à la télé, oui, même dans les médias, oui, la cocaïne, c'est connu dans le milieu de la. Bon, il y a aussi une dimension festive. Hein, enfin, voilà. Mais c'est comme dans le cyclisme, hein, le pot belge, par exemple. Moi, je raconte dans la face cachée de l'équipe, parce qu'il m'a voulu un procès pour diffamation, que j'ai perdu d'ailleurs. Je raconte comment deux journalistes de l'équipe se sont fait accuser par un de leurs collègues, Pierre Ballester, d'ailleurs, qui est un anti-Armstrong notoire. Eh bien, ils ont été accusés d'avoir consommé des pots belges. Qui est un mélange d'amphétamine et de cocaïne, avec des coureurs de l'équipe Festina. Alors quand je dis qu'ils ont été accusés, c'est avéré, hein, c'est un secret de polichinelle. Sauf qu'on n'a pas le droit de l'écrire, hein, parce que pour avoir la preuve, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un avec une caméra cachée qui filme. Vous voyez le truc ? Je n'avais que 3 témoignages, donc bon, bref. Et tous les journalistes, 50 journalistes qui me disent « Ouais, mais tout le monde le sait, hein, ils ont tous pris des pots belges. » En plus, prendre un pot belge, ce que j'ai dit au tribunal, c'est que ça n'a rien de répréhensible. Enfin, c'est comme, ouais, c'est festif, quoi. C'est comme fumer un joint. Sauf que le problème que ça soulève dans le cas des journalistes, c'est que ce sont des journalistes qui prennent de la drogue avec des coureurs sur lesquels ils vont écrire des articles. Alors bon, en matière d'objectivité, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, quand on lit les articles que j'ai cités abondamment dans la face cachée d'équipe, des articles dithyrambiques, on comprend que ça crée des liens quand même, hein, le pot belge. Donc oui, tout à fait. Donc les journalistes prennent des pots belges, prennent de la cocaïne, des cadeaux supérieurs qui sont ou des commerciaux et qui ont des objectifs. C'est tout ça, c'est stressant. Donc on prend. Et ce que dit Mondenard, c'est que en fait, quand on prend un produit dopant, c'est pas spécialement uniquement pour aller plus vite. C'est aussi un euphorisant. La cocaïne, c'est un euphorisant, c'est un désinhibant. Vous oubliez vos complexes, vous vous dites que vous êtes le plus fort, vous êtes le meilleur, vous allez bouffer votre adversaire. Donc, en effet, on est dans un monde ultra-libéral, de compétition tous azimuts. J'entends ce terme parce qu'on est sur une terre socialiste, donc on peut parler comme ça. Voilà, donc c'est désinhibant. Donc voilà, oui, tout le monde se dope d'une certaine manière. Sauf que les contrôleurs antidopage, on les trouve que dans le sport. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il y a des contrôleurs antidopage que dans le sport. Ben en fait, moi je pense que l'ironie de l'affaire, c'est vraiment ma conviction, c'est qu'il n'y a de contrôleurs antidopage que parce qu'il y a de l'argent en réalité. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que à l'époque du sport amateur, on s'en fichait que les gens se dopent. Et d'ailleurs, jusqu'à la loi de 66, il y a une loi qui était adoptée en 66, eh bien le dopage, de fait, était toléré. Puisque tout ce qui n'est pas interdit est permis. C'est un des adages fondamentaux du droit. Quand Fausto Coppi dit qu'il prenait des pastilles d'amphétamine, il pouvait le reconnaître d'autant plus facilement que ce n'était pas interdit. Quand les frères Pélissier se confiaient à Albert Londres en 1924, c'est ce fameux article du Petit Parisien qui n'a pas été titré donc les forçats de la route, mais les gens de la route, vous l'avez compris. Là, ça, c'est dans la famille, il faut tordre le cou aux idées reçues. Eh bien les Pélissier leur disent, mais attendez, Albert Londres, qu'est-ce que vous croyez pour faire les 3000 km de ce fou de Henri Desgranges Vous croyez qu'on n'a pas besoin de petits remontants, évidemment, qui prennent des remontants torboyaux, drogue et compagnie. Ça, c'est obligé. Mais il n'y avait pas de contrôle antidopage. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une certaine injustice. Hein. Bon, il y a des gens qui sont pour... Anne Verbruggen, il est pour qui est hollandais, hein, lui. Hein, il est pour une libéralisation totale des drogues douces et dures sur le Tour de France. Bon, c'est un vieux débat. Donc oui, il y a une tolérance générale de la société et une sorte de sévérité ou de fausse sévérité vis-à-vis des dopés, des drogués du sport. En même temps, tous les États qui ont essayé d'introduire une certaine forme de laxisme n'ont pas résolu le problème des drogues. On voit bien que les Pays-Bas font un retour en arrière. Est-ce qu'en termes de santé publique, ce serait une bonne idée d'autoriser le dopage? Je ne suis pas complètement sûr. Parce qu'après, comment est-ce qu'on fait pour contrôler tout ça, quoi? C'est un peu compliqué, quoi. Voilà.
On est dans un pays de tradition catholique, de religion catholique, et il y a un commandement dont on ne parle jamais, c'est le 11e, ne te fais jamais prendre. Donc pourquoi est-ce qu'il se passe dans la société, d'une manière générale, ne te laisse jamais prendre, pourquoi ça ne se passerait pas dans le sport? Vous parliez tout à l'heure de l'esprit capot qu'il peut y avoir dans un peloton. Moi, je me rappelle très bien, j'étais un fanatique de vélo et j'étais un fanatique de sport. Je le reste toujours, mais au sport purement amateur, dans le plaisir de voir des jeunes, par exemple, jouer sur un terrain de foot, dans le plaisir de voir des jeunes jouer au rugby, par exemple. Ça, c'est fabuleux. Pour moi, je serais toujours un amoureux du sport à ce niveau-là. Donc, je me souviens très bien d'avoir vu Bernard Hinault, appelé le blaireau, mais régler à coups de poing les mœurs du peloton. Et les mœurs du peloton, ça consistait à ce que les coureurs suivent la loi de Bernard Hinault, de son directeur sportif, avec la bienveillance amicale des journalistes. Je voudrais rajouter par contre des choses plus sérieuses. Lorsqu'on accepte le dopage, juste un mot, sur le plaisir que l'on peut avoir dans la haute compétition sans le dopage. Lorsque vous courez, que vous vous donnez au maximum de vos capacités, vous éprouvez un plaisir qui est absolument extraordinaire. Donc, le dopage ne vient peut-être que pour prolonger finalement ce plaisir. Le problème, c'est peut-être la compétition poussée à son excès. C'est pas, à mon avis, le dopage. Le dopage vient après. Par contre, le dopage et l'acharnement à vouloir avoir des stars, à vouloir avoir des gagnants, ça amène à des catastrophes dont on ne parle que très rarement. Des jeunes qui se dopent très tôt. Moi, j'étais directeur d'une école. J'ai toujours veillé à ce que les jeunes, lorsqu'ils pratiquent le sport, le fassent dans des bonnes conditions. Et tous les sportifs qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi et qui sont maintenant, qui se traînent dans des cliniques de désintoxication. Je pense que j'ai été, moi personnellement, un grand responsable. Je me suis retrouvé installé devant les écrans de télévision, devant le Tour de France. S'il n'y a rien qui se passait, effectivement, je regardais. Et puis, je me mentais tout le temps. À une époque, ma femme est là, elle est témoin. Je lui disais, tu sais, chérie, je regarde le Tour. C'est parce que les paysages sont magnifiques. Mais je pense qu'on a tous une responsabilité. On est... Ah, je ne sais pas comment dire ça. Mais il faudrait que chacun d'entre nous, on balaye un petit peu devant notre porte. Surtout quand on aime le sport.
Je réponds. Oui, non, mais entièrement d'accord avec vous. Effectivement, le fléau du dopage touche les jeunes et de plus en plus jeunes. C'est ça le drame. On pourrait citer plein d'exemples. Il y a un exemple qui a endeuillé l'actualité en Belgique, mais ça concerne tout le monde. C'est le cas Frank Vandenbroucke. Vous avez peut-être entendu parler du décès. C'est très triste, Frank Vandenbroucke, qui était un immense coureur belge, qui avait un immense talent, un gars très généreux, voilà, qui aimait la vie, et qui est tombé dans la spirale du dopage et de la drogue. Enfin, c'est quelqu'un qui... On pensait qu'il en était sorti, et là, il était en train de terminer sa carrière, et puis là, on a appris qu'il est mort dans des conditions vraiment pathétiques, dans une chambre d'hôtel, en Afrique, je ne sais plus où, on ne sait pas trop comment il est mort. Ça rappelle, ça rappelle l'affaire Pantani, hein, c'est pareil. Pantani, et puis souvent c'est des jeunes ou moins jeunes qui meurent seuls, quoi. Une très grande solitude. Ça, ils ont tout connu. Ils ont connu la gloire, l'argent facile. Et puis, ouais, ils ont certainement manqué de cadre et de repères. Ça leur arrivait trop vite. Et puis, ils finissent comme ça de façon un peu, un peu pathétique. Voilà. Donc, ça. Et puis, bon, alors, il y a ceux dont on parle et ceux dont on ne parle pas. Évidemment, il y a tous ces jeunes qui ont fait miroiter la poule aux œufs d'or et qui évidemment, les vainqueurs du Tour de France. Il y en a un par an et souvent, ils le gagnent 4-5 fois. Donc, c'est la gloire. Elle n'est pas partagée. Elle est choix à très peu de gens. Et c'est beaucoup de déceptions. Et c'est beaucoup de jeunes qu'on retrouve dans les cliniques à se désintoxiquer. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que la logique est une logique de vedettarisation. Ça, comme vous l'avez très bien dit. Donc, on veut des vedettes. Moi, j'ai fait un livre pour l'équipe. La devise de l'équipe, c'est l'équipe légende le sport. Ils veulent du champion, ils font du champion, ils fabriquent du champion. Ils sont obsédés par les champions. Il y a 30 ans, c'était pas comme ça. Je vais me dire, c'est mon côté, c'était mieux avant, mais on parlait beaucoup plus de sport amateur. Là, c'est le truc qui les intéresse, c'est Zidane et compagnie, quoi. Donc, et même le dopage, ce qui les intéresse, c'est le dopage des plus grands, quoi. Ça fait vendre. Effectivement, le dopage des plus jeunes, c'est tout ce qui est de l'ordre de la santé publique, de l'éducation, ça n'intéresse pas les grands médias, ça ne fait pas vendre. Ce sont des drames anonymes qui ne font pas vendre, effectivement. Ça, c'est... Et les pouvoirs publics ont une responsabilité croisante. Quand on voit Nicolas Sarkozy, je ne vais pas taper sur Sarkozy, c'est tellement convenu, les journalistes sont humiliés par Sarkozy, ce qui n'est pas mon cas. Sarkozy, il a dit un truc incroyable sur Lance Armstrong. Enfin, c'est totalement irresponsable. Il a dit un truc façon Sarkozy. Il a dit oui, je sais, Lance Armstrong, il a pas une bonne réputation. Alors, on dit qu'il s'est dopé. Mais attendez, s'il a pris des pastilles pour gagner le Tour de France, moi, mais qu'on me les donne ces pastilles. Hein, moi, je voudrais bien les prendre pour diriger la France. L'air de dire, ouais, bon, il s'est dopé, d'accord. Enfin, faut être sérieux. Il a quand même gagné le Tour de France. Hein, bon. Voilà. Et puis, alors, c'est pareil, Bernard Laporte, qui a dit qu'il avait beaucoup d'admiration pour Lance Armstrong. Bon, Bernard Laporte, c'est un peu de gréseur de l'intelligence. C'est un petit peu facile de dire ça. Déjà, il a du mal avec sa syntaxe, mais bon. Non, parce que la plupart des sportifs sont des gens intelligents, mais malheureusement, Bernard Laporte, il n'est pas représentatif. Voilà. Donc, c'est vrai que là aussi, le message qui est envoyé aux jeunes, il est irresponsable. D'un côté, on leur dit, le dopage, c'est pas bien. D'autre côté, on dit, Lance Armstrong est formidable. Ah bon, d'accord. Cherchez l'erreur. Donc, mais je souscris à ce que vous dites.
Au niveau du dopage chez les jeunes, c'est une réalité. Elle est combattue quand même par les ministères, quels que soient les éducateurs. Il faut quand même pas entendre un discours, on dirait aux jeunes de pas faire du sport parce qu'on a peur qu'ils finissent drogués dans une clinique. C'est comme interdire à un gamin de faire de la guitare parce qu'on n'a pas envie qu'il tape sa femme comme Bertrand Cantat ensuite. C'est à peu près le même degré. Hein. Je veux dire, un gamin qui fait du sport a quand même plus de chances à 20 ans de terminer en bonne santé qu'un gamin qui va au bistrot ou qui va en rave party. Hein. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Même si le sport est loin d'avoir toutes les vertus qu'il veut bien se récupérer.
Non, mais je parlais d'exemplarité, je parlais des ministres, pas des ministères. On parlait de Basson. Basson, vous le savez sans doute, Basson est un fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et des Sports aujourd'hui. Parce qu'il est chargé des contrôles antidopage dans la région Aquitaine. Il travaille pour la direction régionale des sports Aquitaine. Et effectivement, le ministère de la Jeunesse et des Sports mène une action tout à fait intéressante. Bon, le problème, c'est qu'ils ont un budget qui n'est pas très important. On pourrait parler aussi des moyens alloués par le ministère. Là, je vous parlais de l'affaire de la douche tout à l'heure. Je suis un peu obnubilé par ce truc-là. Mais il y a un truc qui est très frappant, c'est... Souvent, les médias ne traitent que les épiphénomènes, ce qui est l'écume des choses, quoi. Mais derrière l'affaire de la douche, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que ça a pu avoir lieu? Quelles sont les conditions qui ont pu permettre cet immense dérapage? C'est vraiment le deux poids deux mesures. Parce que vous avez un petit cycliste de 17 ans qui se fait gauler comme ça comme Lance Armstrong, sa carrière est foutue, quoi. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est en fait ça met en lumière le manque de moyens qui sont alloués à la lutte antidopage. Ce que me disait Basson, ce que me dit Mondenard. En fait, en principe, pour que ce soit efficace, un contrôle antidopage, un contrôle inopiné, il faut qu'il y ait deux inspecteurs. Il faut qu'il y en ait un qui se charge un peu de la paperasse ou ça, et qu'il y en ait un deuxième qui surveille le coureur. Et dans le cas d'Armstrong, il n'y en avait qu'un seul. Et pourquoi il n'y en avait qu'un seul? Il n'y en avait qu'un seul. J'ai posé la question à l'Agence française de lutte contre le dopage. Ils m'ont dit, c'est une question de moyens. On a un budget. En fait, ils sont financés à 50% par le CIO, par le Comité olympique, et à 50% par le ministère de la Jeunesse et des Sports, donc sur le budget de l'État qui est voté chaque année à l'automne. C'est le budget de la nation, hein. Et évidemment, on comprend qu'il y a d'autres priorités que le dopage. Hein. Il y a le chômage, il y a les inégalités, il y a la pauvreté. Ça, je comprends tout à fait. Mais si on dit que c'est une priorité, on pourrait peut-être mettre un peu plus d'argent. Et en fait, ce que dit l'Agence française de lutte contre le dopage, elle dit, bon, si on met deux inspecteurs par contrôle inopiné, ça fera deux fois moins de contrôle. Et il faut savoir ce que vous voulez. Moins de contrôle ou des contrôles plus efficaces? Donc, ils ont choisi de faire moins, de faire pas mal de contrôle, mais avec moins d'inspecteurs. Alors, peut-être que dans le cas d'Armstrong, ils auraient pu en mettre un deuxième. Hein, ça, c'est notre problème. Voilà.
Mais je crois surtout qu'ils n'ont ni les moyens ni de toucher au sport qui génère autant d'argent, que ce soit le foot, le rugby maintenant, le cyclisme et le Tour de France. Et ils mettent les moyens justement pour faire de l'éducation sur des tranches dans lesquelles ils peuvent encore intervenir. Et ils comptent à terme que le sport professionnel va s'auto-réguler, comme le fait dans une certaine mesure la NBA ou le foot américain ou le baseball, dans lequel ils se sont aperçus qu'ils avaient tellement de drogués dans le baseball que plus personne regardait le baseball. Et ils ont viré 80% des joueurs et ils repartent avec une nouvelle génération et avec un marketing derrière. Et ils se sont auto-régulés parce qu'il n'y a aucun contrôle. Et je pense qu'ils comptent là-dessus. Bon, après, c'est bien, c'est pas bien. Mais je crois qu'il faut bien faire passer le message aux gens qu'à très haut niveau, le sport n'a plus rien à voir avec le sport de même de haut niveau. C'est vraiment une... Surtout quand il y a de l'argent, quoi.
Je dirais que c'est pas tout à fait ça. Non, pas besoin de micro.
C'est
pas besoin de micro, je peux parler comme ça.
Moi, non, mais c'est pour nous. C'est pas...
Ah, d'accord. Je dirais juste une chose. C'est qu'on est dans... On est plus dans une vie simple, logique, de bon sens. Le bon sens, c'est un grand mot qu'on a perdu, je pense. Alors, je dirais qu'il faut médiatiser tout. Alors, si on ne fait pas des vedettes, n'importe lesquelles, un chanteur, même un danseur ou quelque chose, il faut qu'il soit médiatisé. On regarde les JO. Mon copain, il aurait bien voulu avoir les JO. Moi, je suis épaté par les performances de tous ces athlètes et la capacité. Si ces gens-là ne sont pas piqués, ce n'est pas possible. On en fait, excusez-moi, vous voulez une bonne viande, ben, vous ne la piquez pas, vous la laissez pousser normalement. Eh bien, manger de la viande belge, c'est de la viande piquée. Ça n'a pas de goût, ça ne vaut rien. Donc, le bon sens, c'est de faire des choses simples, sans trop pousser. La nourriture que vous achetez à un supermarché, c'est pareil, tout est poussé. Il faut faire du fric, du fric, du fric, du fric. Eh bien, nous allons en mourir, messieurs. Nous allons en mourir petit à petit les uns les autres. Et sans vous en rendre compte, on banalise des choses complètement. Alors, ce que vous dites dans le sport, c'est bien. Moi, j'ai une question. Poulidor, est-ce qu'il s'est dopé ou est-ce qu'il ne s'est pas dopé? Parce que c'est un homme que j'aime bien. J'ai vu Jacques Anquetil. Jacques Anquetil, il est mort jeune d'un cancer. En revenant d'un avion, il n'y a pas très longtemps, c'était une médaille d'or. C'était un russe, médaille d'or de judo. Cet homme, il avait 42, 43 ans. Et on est revenu, je revenais de Kiev, on avait deux heures d'avion. Il m'a dit, monsieur, mon argent, j'en ai gagné beaucoup, mais je vais mourir jeune parce que vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que j'ai dans ma chair. Alors cet homme, il va mourir jeune. Alors il dit, cet argent, je le donne pour mes enfants parce que j'avais rien, je m'en suis sorti. Alors est-ce que c'est un moyen de s'en sortir, de se doper? Je pense que oui, parce que ces gens-là, ils n'avaient pas d'avenir, ils ont besoin de ça pour se sortir de quelque chose. Et vous avez le plus bel exemple qu'on a en France, notre président. Mais c'est le plus pourri des pourris, ce type. Il prône la compétence, la performance à tout prix, à n'importe quoi. C'est un pauvre type et je le plains. Mais moi, je m'évaderai de ce pays. Mais je m'évaderai. Il n'y a pas beaucoup d'avenir dans une citoyenneté comme ça. C'est très politique tout ça, finalement, cette affaire de sport. Voilà ce que j'avais à dire.
Vous avez bien raison, c'est éminemment politique. Et ben Poupou, alors, il était dopé, Poupou, Raymond Poulidor. Et ben écoutez, c'est une vraie bonne question, ça. Hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, vous voyez, on ne parle pas des seconds couteaux, c'est dommage. Moi-même, je suis un peu gangréné par cet esprit de compétition. Donc, ben écoutez, Poulidor, écoutez, je ne peux rien affirmer, c'est toujours pareil. C'est difficile de dire, un tel, c'est pas dopé. Mais Poulidor passe pour avoir été plutôt plus propre que... D'abord parce qu'il travaillait avec Antonin Magne, qui était plutôt un directeur sportif intègre. Alors, la question se pose pour le Tour de France 64, le fameux Tour de France 64. Vous vous souvenez, cette étape mythique du Puy-de-Dôme, ou la montée du Puy-de-Dôme. Moi, je suis clermontois, donc je connais bien. Où ils sont coude à coude, vélo contre vélo, ils font la grimace. Et c'est sur ce Tour de France-là, Anquetil bat Poulidor, il a 50 secondes d'avance. On sait qu'Anquetil, lui, carburait vraiment au dopage. Poulidor, pas tellement, beaucoup moins. Donc on peut se poser la question, bon, il ne s'agit pas encore une fois d'enlever du mérite à Anquetil, mais probablement que, j'allais dire, dans des conditions égales, Poulidor aurait pu gagner ce Tour de France. J'en prends le conditionnel. Hein. Donc c'est vrai que. Alors ce qui est marrant avec Poulidor, c'est qu'il a, il l'a jamais ramené avec ça. C'est son côté, au palais de bon sens. Il y a un côté très fair-play, Poulidor. Maintenant, dans son cas, je pense qu'il avait un autre problème, entre guillemets. C'est qu'il n'avait pas cet esprit de compétition-là. Je pense que c'est pour ça que les Français l'aimaient beaucoup. Poulidor, c'est un type qui ne pensait pas 24 sur 24 à la victoire. Armstrong, c'est un robot. Il est obsédé par ça. Il pense qu'à ça. Il est comme Sarkozy. Sarkozy, il l'a dit, en se rasant, à 22h, je suis couché, je rêve. Il se voyait sur un char romain avec des lauriers. Bon, voilà. Mais c'est un moteur, ça, pour gagner. Et Napoléon, voilà. Napoléon, voilà. C'est pareil. C'est Napoléon, se voyait, lui, en César. Napoléon bis. Et Poulidor n'avait pas ça. Et c'est probablement pour ça qu'il a pas été. Il a quand même gagné Tour d'Espagne, mais bon, c'est moins bien, quoi. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas que le dopage. Mais probablement qu'il aurait pu gagner au moins un Tour de France. Voilà. Alors maintenant, pour répondre à votre question sur l'autorégulation. Alors ça, l'autorégulation, c'est un peu comme le salaire des patrons. Vous savez, MEDEF nous a fait le coup. Ah, on va s'autoréguler. Bon, on a vu ce que ça donnait, hein, Proglio et consorts. Bon, alors là, l'autorégulation dans le domaine du sport, ça aussi, j'y crois moyen. Alors, vous parlez d'autres sports, c'est profondément vrai. Là, je vous l'ai dit, je fais une enquête sur la FIFA et je trouve que j'ai parmi mes projets de sympathiques, et je devrais faire une enquête, un livre sur le dopage dans le foot. Parce que je tape pas sur le cyclisme. Alors ça, c'est encore un sacré chantier. Alors, il y a trois jours, le monsieur dopage de la FIFA, Fédération internationale de foot, il a fait une déclaration incroyable. C'est un certain monsieur Dvorak. Il a dit, bon, on va peut-être arrêter de faire des contrôles antidopage parce que ça sert à rien. Parce que qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que 0,02% des contrôles antidopage débouchent sur un cas positif. C'est donc qu'il n'y a pas de dopage dans le foot. Donc on va arrêter. Ouais, c'est QFD. Voilà. Non, c'est pas sérieux. Surtout que les contrôles ne sont pas bien diligentés. Lors de la dernière Coupe du Monde de foot, il n'y a pas eu de contrôle sanguin. Le président n'a dit pas de contrôle sanguin. On sait que c'est les seuls contrôles efficaces. Donc effectivement, si on fait des contrôles, si on fait tout pour que les contrôles ne soient pas efficaces, on va prendre personne, quoi. Donc oui, le cyclisme est tout le temps pointé du doigt, alors qu'il y a des sports qui génèrent beaucoup plus d'argent. Le foot, c'est un énorme scandale. On sait que l'équipe de France 98 a été chargée à bloc comme les autres. On sait que Zidane ne s'est pas présenté à un contrôle antidopage facultatif, il est vrai. En 98, en 2006, après la finale. Parce que bon, parmi les raisons invoquées du coup de boule de Zidane, il y a peut-être qu'il prend un peu trop d'amphétamine. Hein. Ça excite un petit peu, quoi. Voilà, ça on saura jamais. Il s'est pas présenté. C'est pas moi qui le dis, c'est la journaliste qui a fait un livre sur lui, Besma Laouri, sur Zidane. Voilà. Donc l'autorégulation, écoutez, ça marche pas l'autorégulation, parce que si ça devait marcher, ça aurait déjà marché. Non, ce qu'il faudrait, je dis, bon, il y a qu'à Faucon, c'est facile, mais il faudrait que le pouvoir politique s'empare du truc. Au niveau européen, il y a l'Union européenne. L'Union européenne, elle est pour plus de dérégulation, plus de déréglementation. Donc, elle ne va pas s'immiscer dans les affaires du sport. Donc ça ne marche pas. Non, le problème, c'est je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai essayé d'en parler, peut-être que j'ai été un peu pas assez précis. Le pouvoir politique, dans le cas du cyclisme, lâche totalement la bride. Il n'y a pas de contrôle. Mais c'est un scandale, le Tour de France. Il devrait y avoir un contrôle du pouvoir politique. Il devrait y avoir un minimum. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc, on est loin de la régulation. Il faudrait un minimum de régulation. Mais bon, on considère que bon, le dopage, il n'y a pas mort d'homme. Il y a parfois des morts. Hein. Il y a eu Tom Simpson qui est mort sur les pentes du Venton 67. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en termes de. Bon, il y a quand même des trucs plus. Il y a des choses plus graves. Hein. Le fait que Lance Armstrong. Moi, je ne suis pas pour qu'on mette Lance Armstrong en prison, hein, très clairement. Hein. Est-ce que c'est si grave que ça? Non. Mais c'est toujours la question de l'égalité. Voilà. Il n'y a pas d'égalité des chances, quoi. On sait bien. Un Alain Armstrong n'est pas à égalité des chances avec un autre. Donc, c'est pour ça qu'en France, d'ailleurs, ça choque plus que dans notre pays, parce qu'il y a une tradition peut-être de l'égalité républicaine en France qui fait ça, quoi. Mais en termes de priorité pour un gouvernement, quand un gouvernement va adopter un budget, quand il voit le budget du ministère de la Jeunesse et Sport sur le dopage, bon, il file 12 millions, 15 millions, ils ne vont pas filer 300 millions, quoi. Voilà. Ça serait peut-être 50 millions de moins pour le chômage, ça serait peut-être contestable, quoi. Voilà.
Juste deux mots. Quand on parle du pouvoir politique, le point de vue du pouvoir politique au travers des âges, ça a toujours été du pain des jeux. Donc, on sait que le pouvoir politique laissera toujours dériver. J'ai juste une question personnelle vis-à-vis de vous, monsieur. Vous auriez pu choisir une carrière plus soft. Là, vous êtes en équilibre, vous risquez le procès pour diffamation.
J'ai déjà perdu.
Oui, en plus, vous en avez perdu un. Pourquoi vous aimez le sport, moi aussi? Pourquoi vous avez choisi cette voie alors que tant d'autres courbent l'échine et la plume?
Vous me flattez. Parce que d'abord, je suis un peu maso, d'abord, à la base. Non, mais moi, j'adore prendre des coups. Non, c'est rigolo. Non, mais d'abord, parce que j'adore m'amuser. Et je trouve que le pourquoi en fait au départ j'étais journaliste économique, mais quand j'étais adolescent, je voulais être journaliste de sport. Mais un jour j'ai fait un cauchemar, je me suis réveillé, je me suis vu dans la peau de Gérard Holtz. Et je me suis réveillé en sursaut, j'étais tout en sueur. Je dis non, tu ne deviendras pas Gérard Holtz. C'est une espèce de nain de Sarkozy du sport là. Bon bref, donc non, c'est vrai, hein, c'est vraiment vraiment vrai. Et donc pendant des années, je me suis tenu un petit peu à distance du sport. Et puis, au départ, je devais faire une enquête sur le groupe Amaury, et puis j'ai recentré ça sur l'équipe parce que ça n'a jamais été fait. Ce qui m'a vraiment effaré, je me suis vraiment rendu compte que ce champ-là était totalement inexploré. Parce que moi, ce que je déteste par-dessus tout, c'est faire comme les autres, quoi. Enfin, le problème des journalistes, ils parlent tous de la même chose. Sarkozy, par exemple, je supporte pas. Tout le monde parle de Sarkozy, mais en même temps, on parle pas du financement de l'UMP. Enfin, des choses dont il faudrait parler. On sait qu'il y a des trucs, des partis politiques se financent dans les paradis fiscaux. Ça, ils enquêtent pas. Les journalistes, ça demande du travail. Ça, comme ils ont un poil dans la main souvent, c'est un peu compliqué. Donc moi, le foot, le sport, maintenant, je m'intéresse, mais c'est plutôt les coulisses c'est plutôt les sujets polémiques parce que ça m'amuse, et puis c'est surtout les espaces inexplorés. Donc oui, c'est un peu dangereux, mais bon, faut relativiser, hein. C'est pas l'Afghanistan non plus, hein. Au risque de perdre des procès. Mais en même temps, les procès, c'est amusant aussi, hein. Moi, je me suis beaucoup amusé en faisant mon procès. J'avais une bonne impression. Bon, après, j'ai perdu. C'est un peu comme une blessure de guerre quand vous posez un procès. Voilà. Non, voilà, je m'amuse beaucoup. Là, je vais faire une enquête sur la FIFA. Ça m'excite beaucoup. Ma prochaine cible, c'est Michel Platini. Michel Platini, alors, c'est pareil. C'est un scandale dans la presse française. C'est le Saint-Vincent de Paul du sport. Il n'a que des qualités. C'est un habile communicant. Alors, Michel Platini est le principal bras droit de Sepp Blatter, qui est un corrompu notoire. Donc ça, les journalistes ne font pas leur travail, donc je vais essayer de le faire. Mais là aussi, ça va pas être facile, à mon avis. Mais ça, voilà, je vais m'amuser, quoi. Donc il faut bien qu'il y ait quelques francs-tireurs. Voilà. Ça me permet d'être invité par l'abbaye du Jouir, donc c'est bien aussi.
Moi, j'avais une nouvelle question. Est-ce que le fric que ça ramène, le sport, est-ce que c'est dans tous les domaines, c'est-à-dire l'habillement, l'équipement, tout ce qui est consommation, ou est-ce qu'il y a des points plus forts, par exemple le vêtement, les chaussures, l'équipement, enfin le vélo, ou c'est la boisson, le restaurant, le spectacle? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus sur ce que ça engendre comme recette? Parce que si les sponsors mettent autant d'argent, parce que moi je vois souvent de temps en temps, je vois Carrefour, je regarde pas souvent, mais bon, voilà.
Le sport génère beaucoup d'argent. Alors, ce qui génère le plus d'argent, ce sont les recettes de télé. Je vous ai parlé beaucoup des droits télé. En fait, ce qui rapporte beaucoup d'argent à Amaury Sport Organisation, c'est les droits télé. 23 millions d'euros. C'est pas que le Tour de France, aussi le Rallye Dakar, mais bon, c'est essentiellement le Tour de France. Donc, c'est ça qui rapporte le plus. On parlait de la FIFA, parce qu'on élargit un petit peu au sport en général. Les droits de télévision de télé pour la Coupe du Monde de football, la prochaine aura lieu en Afrique du Sud au mois de juin, je suis à très près. Alors, je sais pas le chiffre, c'est entre 2 et 3 milliards d'euros, quoi. C'est pareil, il y a 30 ans, c'était gratuit pour la télé. Maintenant, c'est 2 à 3 milliards. Ça, qui est à l'origine de ça? Ça rejoint votre question. C'est un équipementier, c'est le groupe Adidas. C'est-à-dire que, au départ, c'est un groupe privé qui est à l'origine de la marchandisation du sport. Le groupe Adidas, ça, c'est le grand journaliste de sport que j'aime. Que j'ai beaucoup d'admiration, contrairement à Gérard Holtz, que je n'admire pas beaucoup. C'est un type qui s'appelle Andrew Jennings, qui est un type immensément talentueux, qui enquête depuis 15 ans sur le CIO et la FIFA. Il raconte dans son bouquin comment Horst Dassler, le fondateur d'Adidas, a corrompu le président de la FIFA, a acheté l'élection du président de la FIFA de 1974, pendant la Coupe du Monde 74, qui s'est déroulée en Allemagne. Et donc lui, il misait sur les deux candidats. Les deux candidats, c'était Stanley Rouse, un Britannique, très old school, qui était pour un sport sans argent, sport amateur, sport plutôt avec des valeurs européennes, etc. Et João Havelange, un Brésilien très ami avec le régime dictatorial de l'époque, totalement affairiste. Et donc sur la fin, il mise sur Havelange et il dit à Havelange, écoute, le foot, là, c'est bizarre quand même, c'est un sport mondial, populaire, et ça ne rapporte pas d'argent, mais t'es fou, quoi. Il faut vraiment que tu... Moi, je te propose de générer du cash. Et c'est comme ça que les droits télé, le marketing télé, du foot a été confié à Adidas, et c'est vraiment le point de départ de la marchandisation du sport, du sponsor. La date clé, c'est 74. Et voilà. Bon, après, ce n'est plus Adidas aujourd'hui qui contrôle les droits, peu importe, mais au départ, c'est ça. Et donc, au départ, c'est bien un équipementier. Et donc, effectivement, les principaux bénéficiaires, ce sont les équipementiers de sport, c'est Adidas, c'est Nike, ceux qui ont les plus gros contrats. Alors, j'ai pas les chiffres de tête, hein, ça existe, hein, je pourrais. Ça, je devrais le savoir de tête, mais voilà, j'ai oublié. Donc, c'est Adidas, Nike, c'est, effectivement, c'est les vêtements. Mais ça va. Mais, j'allais dire, ça va, aujourd'hui, ça va bien au-delà. Vous avez beaucoup de groupes qui font de la publicité autour du sport. Si vous voulez, il y a 30-40 ans, le sport était un peu dans un ghetto. Si on prend c'est un très bon indicateur, prenons les annonceurs de l'équipe. L'équipe, jusqu'à les années 70, c'était des annonceurs, j'allais dire, spécialisés. Des annonceurs automobiles, parce qu'il y a toujours une rubrique automobile importante dans l'équipe. Vous aviez des équipementés sportifs, etc. Donc, le sport était, bon, vous l'avez dit, c'est un milieu masculin, de passionnés. C'était ça jusqu'aux années 80. Les années 80, le sport a changé de dimension. Il s'est universalisé, il s'est déringardisé. Le sport avait encore un peu une image de ringarde. Le sport est devenu une activité de cadre. C'est très important parce que les annonceurs dans les journaux se sont dit, oh là là, c'est pas qu'un truc de prolo qui sent pas bon, c'est bon ça pour annoncer. Les cadres s'y mettent, les gens qui sont qui ont des postes importants, je dis ça évidemment entre guillemets, hein. Et donc ça correspond aussi au moment de l'explosion de la télévision, parce que jusqu'aux années 80 la télévision c'était pas grand chose. C'était 4-3 chaînes de télévision, hein. Au début des années 80 c'est l'arrivée de Berlusconi avec la 5. Ensuite, il y a eu la 6 avec le groupe Bertelsmann. Bon, c'était d'abord à TV6, le groupe M6, voilà. Et donc, ça s'est diversifié. Aujourd'hui, si on prend les sponsors, si on prend le profil des sponsors, il est très diversifié. Prenons, on a parlé de rugby. C'est quoi les sponsors de l'équipe de France de rugby ? C'était des banques, c'est la Société Générale, le plus connu, c'est Groupama. C'est pas du tout des équipementiers. Donc, aujourd'hui, ça serait difficile en deux minutes de répondre à votre question, mais qui, par contre, est très étudiée par des économistes du sport et qui est une vraie bonne question. Aujourd'hui, c'est des milliards d'euros. Bon, c'est pour ça que je m'y intéresse, parce qu'au départ, je suis journaliste économique, je m'intéresse au sport sous un angle économique et politique. Ce sont d'immenses intérêts financiers auxquels ne s'intéresse très peu la presse, parce que la presse s'intéresse ça sous un angle un peu glamour, les sportifs, les champions, etc. Elle s'intéresse moins aux coulisses, parce qu'on suppose que ça n'intéresse pas les gens. Alors, je suis persuadé que ça intéresse les gens aussi, hein. Les histoires d'argent, ça intéresse toujours, quoi. Voilà. Donc, en effet, ce sont des intérêts colossaux. Pour résumer, au départ, ce sont plutôt des sponsors de sport, enfin, équipementiers autour des sports. Et puis aujourd'hui, c'est toute l'économie qui irrigue le sport et qui est devenue une activité de premier plan et sur le plan économique.
Question ?
Alors, je ne vais pas conclure, hein, mais ce qui rejoint ce que vous dites, c'est que moi, quand je vois par exemple les courses de bateaux, là, ben, c'est plus des noms, c'est que des. C'est des noms de société, quoi. Ouais.
Areva.
Voilà. C'est,
le défi Areva.
Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on assiste à une course de grande marque, quoi. Voilà.
Oui, oui, c'est ça. C'est que. En plus, oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que comme le sport. Parce qu'en France, le sport a un statut qui est très particulier. Moi, je l'ai vu en étudiant le cas de l'équipe. Le sport a longtemps été méprisé en France. C'était vraiment relégué. L'intelligentsia française, les intellectuels ont vraiment méprisé le sport. Le sport, c'était vraiment pour les analphabètes, les handicapés, les mongoliens, tout ce qu'on veut, quoi. Non, mais c'est terrible, c'est très, très prégnant dans la littérature, hein. C'est pour ça que l'équipe a aussi cette situation de monopole. L'équipe, c'était vraiment pour les gens pas intelligents, etc. Ce qui est idiot, évidemment. Le sport, c'est pas une question d'intelligence, le sport, quoi. Voilà. Et ce qui fait que depuis 20 ans, ça a explosé. Ça a été dans tous les sens. Comme ça a coïncidé avec la déréglementation néolibérale au niveau mondial, on a ouvert les vannes. Donc effectivement, maintenant, ça choque plus personne que, comme vous dites, quand France 3, qui c'est quand même le service public, il nous présente des courses. Alors le défi Areva contre Groupama, mais on s'en rend même plus compte. Ben, c'est fou quand même. C'est une course de bateau. Non mais moi, qui ai des acteurs économiques, ça ne me choque pas. Mais quand même, qu'ils soient présents. Bon, petite personne, je suis assez anti-pub, mais qu'ils soient présents, ok, mais qu'on ne voit plus qu'eux, c'est quand même bizarre. C'est comme sur les sponsors. C'est vrai que dire le sponsor Festinard, c'est même pas le vrai nom. Ça aussi, je vous l'ai dit, en 81, les socialistes qui arrivent au pouvoir, il faut changer d'avis. Il y en a marre des cyclistes home sandwich et les caravanes publicitaires. À l'époque, il y avait encore un débat. Bon, maintenant, les socialistes s'en foutent, quoi. Enfin, tout le monde s'en fout, quoi. Or, mais c'est quand même un vrai débat, quoi. Enfin, c'est un vrai débat de fond. Le laisser aller, le fait qu'on dise l'autorégulation, on voit bien que ça marche pas, quoi. Et c'est une des raisons des excès. Et une de, une des raisons du dopage, parce que d'un côté, on dit « Oh, le dopage, c'est pas bien ». Mais effectivement, si on laisse faire, si on laisse une mainmise totale de l'argent, il ne faut pas s'étonner après que cet esprit de compétition tous azimuts entraîne du dopage. Enfin, c'est, à un moment donné, il faut peut-être s'attaquer aux racines du mal, quoi. Voilà. Donc, il faut réguler.
Moi, je voudrais parler d'une expérience tout à fait personnelle. Voilà, il se trouve que je suis à la BP. J'aurais pu être ailleurs. C'est pas bien grave. Et cet été, j'étais donc en vacances sur l'Orient et je me trouvais à côté de la cité Tabarly et d'un seul coup, j'étais donc avec mes mômes, etc. On se promenait, on se baladait. Et puis, on arrive devant le hangar, parce que là, on peut même parler de hangar. Enfin, là, c'est énorme. Il faut y être allé pour voir. Où il y avait le fameux, la dernière mouture du bateau Banque Populaire qui était en train de se construire. Et moi, les gamins regardaient ça admiratif et je leur dis, ben, venez, on va aller visiter puisque c'est à nous. Et donc on est rentré dans le hangar, etc. Donc vous imaginez bien, on s'est fait un petit peu repérer. Et moi j'ai dit aux gens, mais écoutez, vous êtes bien gentils, vous êtes tout ce que vous voulez, mais c'est à nous. Et j'invite tous les gens qui sont à Groupama ou à quoi que ce soit de faire la même chose. C'est à nous. Alors mes gamins, bien sûr, ils étaient effarés, ils se sont marrés, ça les a fait rire. N'empêche que quand même, on a réussi à faire fermer les portes.
Vous n'êtes pas rentré alors ?
Si, ah. Mais on nous a foutu dehors. Mais cela dit, c'est pas grave parce que il se trouve que je suis pas retourné voir mon agent, mais quand je vais retourner le voir, je vais lui dire, je veux un mot comme quoi j'ai le droit d'y aller parce que c'est à moi. Autant qu'à eux. Le reste, non, mais je pense que c'est vachement important parce qu'effectivement, on peut parler de Groupama, de tout. Effectivement, ils dépensent une fortune dans ces trucs-là, sauf que c'est à nous. Ça nous appartient parce que c'est avec notre argent. Et on contribue largement à ça.
Ça appartient aux actionnaires, en fait.
Mais. Voilà. Mais finalement, il n'y aurait pas d'actionnaires si on n'y était pas.
Oui, c'est juste.
Voilà, c'est juste une petite expérience pour relater. Et je trouve que c'est important. Et chaque fois que ça arrive, je vous invite à le faire.
Crise de pouvoir citoyenne.
C'est peut-être pas avec ton argent, mais avec le bénéfice qui est fait sur ton argent. Donc,
absolument.
Donc le bénéfice qui est fait sur ton argent, c'est pas à toi.
C'est... Bah, il y a le droit de propriété quand même, le droit de propriété, hein, c'est ça le problème. Qui possède
une petite anecdote sur les bateaux, lors des premiers naufrages qui avaient été retransmis, ils s'étaient aperçus, je ne sais pas quel bateau, ils avaient fait une connerie.
Quel premier naufrage? Vous parlez d'une course en particulier, la Route
une
d'Europe,
course, ou... ouais, qui avait ouais. été retransmis, assez médiatisé. Il y avait la coque à l'envers et qui était restée 3 jours... pratiquement non-stop à la télé. Et
on
les courses...
la marque dessus ?
Non, pas sur les premiers, mais les courses d'après, ils avaient corrigé. Et maintenant, quand ils partent, il y a la marque dessous en cas de naufrage pour pouvoir communiquer. Donc,
je connaissais pas l'anecdote.
Bon, alors ? Non ? On peut continuer hein. J'en profite pour saluer Daniel Côte-Colisson, là, qui est là et qui est venu il y a l'année dernière. L'année dernière, faire une intervention à l'Université des Bistrots, et qui est un spécialiste des chiffres et des nombres, et surtout qui passe pas mal de son temps à vérifier si c'est ça, hein, à voir un petit peu tous les subterfuges qu'il peut y avoir dans les chiffres qui sont cités.
Ouais, moi, j'ai pas mal de subterfuges dans les chiffres aussi. Hein.
Donc. Je leur remercie encore une fois d'être venu dans le Haut-Morvan. Là, de faire... Voilà. Bon, peut-être, s'il n'y a pas d'autres interventions, parce que, vous voyez, c'est plutôt intéressant d'avoir ces interventions et de ne pas avoir de limites comme ça. Mais bon, après, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, il y a une librairie universitaire hein, à chacune de nos sessions. Et donc, voilà, j'en profite pour présenter... deux ouvrages, parmi d'autres peut-être, non, je ne sais pas.
J'en avais fait deux avant, hein, mais ce n'était pas sur du sport. C'était un guide présentant les turpitudes des 50 principales multinationales mondiales et un livre sur les activités peu recommandables du groupe Bouygues au Turkménistan, sympathique dictature d'Asie centrale. Voilà.
Donc voilà, alors on a réussi à avoir ces deux-là. Donc, la face cachée de l'équipe, il y a des choses, c'est écrit petit en plus, il doit y avoir pas mal de choses, ouais, il doit y avoir pas mal de choses de cachées, hein, parce que avec tout ça derrière.
Ah, les journalistes en prennent pour leur grade. Hein, ouais.
Et puis la grande imposture sur le Tour de France, hein, je suppose.
Tour de France et Lance Armstrong.
Et ouais. Lance Armstrong, beaucoup voilà. Sur le Tour de France, Armstrong. Donc voilà, on en a quelques exemplaires. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui n'a pas pu venir, ou si vous voulez l'offrir à un cycliste que vous connaissez.
Ou si vous voulez le dégoûter définitivement.
Voilà, donc... ou si vous voulez avoir sur vos, dans votre bibliothèque, chez vous ou chez vous, une trace de cette soirée. Donc, parce que quelqu'un me disait, moi, je peux pas, j'achète pas les livres parce que j'ai pas le temps de les lire. Mais bon, y a plein de gens qui lisent pas les livres qu'ils achètent. C'est pas très grave. Hein, c'est,
ça fait bien dans la bibliothèque. C'est pour la déco. Hein.
Non, mais et puis ce qu'il y a, j'entendais un. À la radio hier, un écrivain, un intellectuel, c'est un prof, c'est un universitaire qui disait, vous savez, moi, j'ai tous ces livres, je lis quelques pages quand j'en ai besoin, je les lis pas forcément, je sais que je les ai, il en avait 15 000. Évidemment, lire les 15 000, vous vous rendez compte. Voilà. Donc voilà, donc si ça vous intéresse. Merci David, c'était passionnant.
C'est intéressant pour moi aussi.